7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le lundi 1er avril. 4 morts cette nuit dans un EHPAD près de Toulouse. On soupçonne une intoxication alimentaire. On y revient très vite dans le journal de 7h avec Hélène Zelani. Mini remaniement, maxi surprise. Sibeth Ndiaye succède à Benjamin Griveaux comme porte-parole du gouvernement, proche parmi les proches d'Emmanuel Macron. Elle était jusqu'ici sa conseillère presse à l'Élysée. Ils veulent changer l'Église. Les catholiques lancent eux aussi leur grand débat. Sexualité, mariage des prêtres, place des femmes. À 7h45, les propositions choc d'une théologienne engagée, Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. Le cauchemar des grandes villes face au développement anarchique des trottinettes électriques, vélos et autres scooters en libre service. Les municipalités ripostent, dossier à suivre dans Europe 1 va plus loin à 7h20. Voilà pour le programme, est-ce que vous êtes prêts à réattaquer ? Vous savez que Mick Jagger avait des petits problèmes de santé, il a annulé une tournée aux États-Unis. Donc pensez pour lui ce matin, j'espère que dans la matinale on écoutera un peu de Rolling Stones. Vous en pensez quoi en régie ?
C'est possible, on en a
dans quelques instants. Voilà pour le programme. Bon réveil à tous et
merci,
bonne semaine.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce lundi 1er avril. Bon réveil, il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin et pour commencer ce drame.
Oui, cette intoxication alimentaire dans un EHPAD au sud de Toulouse. 4 résidents sont morts. Le mini remaniement, 3 nouveaux noms, 3 nouveaux visages, dont 2 sont de proches conseillers d'Emmanuel Macron. Détail dans un instant. Et puis les métiers d'art à l'honneur avec le coup d'envoi des journées européennes. Rencontre avec des artisans qui perpétuent les traditions, comme le plus jeune orfèvre de France.
Et à 8h15, l'invité d'Audrey Crespo-Mara sera Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise aux Européennes.
Europe 1.
C'est donc une intoxication alimentaire aux conséquences terribles. Elle s'est produite hier soir dans une maison de retraite de Haute-Garonne. Julien Pierce, premier bilan, 4 morts.
Oui, bilan provisoire pour l'instant car ce sont en tout 22 personnes âgées qui ont été victimes de cette intoxication alimentaire présumée. 15 résidents sont à l'heure actuelle dans un état d'urgence relatif selon la préfecture de Haute-Garonne qui indique que les secours se sont immédiatement rendus sur place. Il s'agit d'une maison de retraite plutôt récente et haut de gamme qui dispose de 87 chambre. Le site internet de l'établissement précise qu'il emploie des cuisiniers salariés avec, je cite, une cuisine régionale préparée sur place sans liaison froide, autrement dit, pas de plat réchauffé. En lien avec le préfet, l'agence régionale de santé a diligenté une enquête et des investigations sont sur place pour déterminer précisément l'origine des faits. Par ailleurs, un centre d'accueil des familles a été ouvert près de la mairie de Lermes où se situe cette maison de retraite.
Merci Julien Pierce, on y revient bien sûr dans nos prochaines éditions.
Politique, il va donc falloir s'habituer à ces nouveaux visages qui entrent au gouvernement. Et ils sont 3.
Oui, 3 qui participeront à leur premier conseil des ministres ce matin, tous trentenaires. 2 étaient jusqu'ici des conseillers d'Emmanuel Macron. Sibeth Ndiaye devient porte-parole du gouvernement. Cédric O, secrétaire d'État au numérique. Et puis la députée Amélie de Montchalin obtient le portefeuille de secrétaire d'État aux affaires européennes, Virginie Riva.
Oui, Emmanuel Macron recrute parmi ses conseillers. Sibeth Ndiaye, jusque-là en charge de la presse, proche parmi les proches, remplace Benjamin Griveaux comme porte-parole du gouvernement. Son nom n'était pas attendu, on parlait plutôt d'elle pour la direction de la communication de l'Élysée, poste qu'elle occupait depuis peu par intérim. Un deuxième conseiller de l'ombre fait son entrée au gouvernement, c'est Cédric O, nommé secrétaire d'État au numérique en remplacement de Mounir Majoubi. En Macronie, il y a un problème de ressources humaines, persifle un député de la majorité. En faisant monter ses conseillers, le président, que l'on dit isolé, s'entoure aussi de proches. Sibeth Ndiaye, c'est le premier cercle. Elle tutoie Emmanuel Macron. Elle a vécu avec lui la campagne présidentielle, tout comme Cédric O, qui était alors trésorier. Seule exception, Amélie de Montchalin, députée, vice-présidente du groupe En Marche, membre de la commission Finances à l'Assemblée. Elle s'est fait remarquer pour ses compétences techniques. Nommée secrétaire d'État aux affaires européennes en remplacement de Nathalie Loiseau, elle devra gérer le Brexit. Elle en a le profil, selon l'un de ses anciens collègue à l'Assemblée, dur en affaires. Quand elle veut quelque chose, elle l'obtient, ajoute-t-il.
Virginie Riva, réaction de Valérie Debord, porte-parole des Républicains. Encore un peu plus techno, encore plus éloigné du peuple, tel est le destin de ce gouvernement. Très critique aussi François Hollande vis-à-vis de son successeur. Ce matin dans le journal Le Parisien, l'ex-président, qui publie cette semaine une nouvelle édition de son livre Les leçons du pouvoir, juge ainsi les 2 ans de mandat d'Emmanuel Macron. Le résultat n'est bon ni pour la vitalité économique ni pour la cohésion sociale. À tout vouloir bousculer, tout s'est arrêté. Fin de citation. Europe 1 est 7h03.
Il s'appelait Jean Villot, il avait 57 ans, cet enseignant proche de la retraite n'a pas supporté qu'on mette en cause son intégrité.
Oui, il s'est suicidé. Une marche blanche a rassemblé hier 1700 personnes à Aubonne, dans le Val d'Oise. Hommage à cet instituteur ciblé par la plainte d'une mère de famille l'accusant d'avoir violenté son enfant. L'enquête a montré qu'il l'avait seulement réprimandé. Ce drame a bouleversé aussi bien les enseignants que les élèves. Reportage de Chanel Petit.
Plus jamais ça, c'était le mot d'ordre de cette marche blanche affichée sur la banderole en tête de cortège et sur les t-shirts d'un millier de personnes. Famille, amis, collègues venus rendre hommage à Jean Villot, un prof en or pour Aline, ancienne élève, qui avait du mal à contenir son émotion.
Très chaleureux, toujours là pour les élèves, jamais eu aucun problème, donc voilà. Quand on est petit, en CP, c'est là où on apprend la vie. Et il nous a appris la nôtre. Un homme formidable, exceptionnel. Oui, c'est très fort aujourd'hui, c'est pour ça que je suis assez émue. Voilà.
Dans la foule des professeurs des quatre coins du département, Agnès notamment, venue exprimer sa colère et sa lassitude.
L'éducation nationale va mal, les enseignants vont mal. Et ça, on n'en parle jamais, parce que c'est une omerta. On ne doit jamais rien dire. Il ne faut jamais que ça sorte de l'école. Et aujourd'hui, ça suffit.
La famille Villot, restée discrète hier, espère maintenant que l'éducation nationale prendra des mesures concrètes pour mettre fin à cette détresse des professeurs, pour que Jean ne soit pas mort en vain.
Reportage signé Chanel Petit.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zelani. Les députés britanniques vont encore tenter de trouver une alternative au Brexit de Theresa May. A tout de suite sur Europe 1. Bon réveil à tous.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zelani. Rien n'est encore résolu au Royaume-Uni.
Les députés de la Chambre des communes vont tenter une nouvelle fois de faire émerger un plan B pour le Brexit. Les Britanniques sont en tout cas déboussolés, y compris dans la circonscription de la Première ministre Theresa May. Là aussi, les soutiens se font plus rares, comme l'a constaté Jean-Sébastien Soldaigny.
Contrairement à son habitude dans les moments difficiles, Theresa May ne s'est pas présentée à la grand-messe du dimanche de l'église de Sonning. Elle est venue plutôt à un office plus discret. Alan, un des fidèles, croyait en elle pour mener le pays au Brexit. Il a de plus en plus de mal à la soutenir.
J'ai voté pour sortir de l'Europe et je ne vois pas comment ça peut arriver maintenant. Elle n'a pas fait du bon boulot, elle a tellement d'ennemis au Parlement, même dans son propre camp. Son texte a été retoqué trois fois et ça va continuer. Et pendant ce temps, rien ne bouge.
Même ceux qui la soutiennent le font du bout des lèvres, mais pro ou anti Theresa May, tous lui reconnaissent la même qualité.
Elle fait du mieux qu'elle peut. C'est une femme forte qui croit en ce qu'elle fait. Elle ne se laisse pas influencer par l'opinion publique et les parlementaires. Elle reste campée sur ses positions et dit ce qu'elle a à dire.
Theresa May doit finir le travail, dit-il, porter sa croix en quelque sorte avant de redevenir une fidèle parmi d'autres à l'église Saint-Andrews. Sonning, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Et le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, estime que l'Union européenne a eu beaucoup de patience avec nos amis britanniques, mais qu'elle est en train de s'épuiser. La rumeur enfle en Algérie. Le président Bouteflika pourrait démissionner dans la semaine. Il l'annoncerait dans un message à la Nation. En attendant, il a nommé un nouveau gouvernement dont ne subsistent que 8 membres de l'ancienne équipe.
Et c'est le moment ou jamais de découvrir les artisans d'art.
Oui, c'est en effet la 13e édition des Journées européennes des métiers d'art. Près de 2000 visites ou portes ouvertes sont organisées dans des musées, des centres de formation ou encore des ateliers un peu partout en France. L'occasion de rencontrer des artisans qui exercent des métiers rares, parfois en voie de disparition, comme le plus jeune orfèvre de France. Il a 37 ans et perpétue une tradition ancestrale. Yasmina Katou.
Un atelier comme un Capharnaüm, 20 mètres carrés dans lesquels il faut se faufiler entre l'établi en bois et des machines parfois centenaires. Un peu partout, des couverts, des théières, des plats. Mais cela peut surprendre, aucun bijou.
Quand je dis je suis orfèvre, tout de suite c'est tu fais des bijoux. Donc non, on ne fait pas de bijoux. Nous on fait vraiment l'art de la table, donc l'argenterie. On va restaurer l'objet entièrement, qu'il soit en métal argenté ou en argent massif.
L'orfèvrerie, Camille a découvert à l'âge de 12 ans grâce à un ami de la famille, maître orfèvre. Il s'est installé à son compte il y a 6 ans seulement. Pour y arriver, il est passé par une école d'art, un apprentissage et plusieurs stages, dont un de 4 ans en Italie à Florence. Au total, 10 années de formation et de sacrifices qu'il ne regrette pas.
Je savais déjà que j'aurais du taf toute ma vie, quoi. C'est un métier qui est physique, qui est sale. Quand on est au polissage, on est tout noir. Mais pour sortir des pièces merveilleuses aussi, quoi.
Vous avez les yeux qui brillent quand vous dites ça.
J'aime ce que je fais, c'est pour ça.
Aujourd'hui, maître en la matière, il transmet, comme ses aînés l'ont fait avec lui, son savoir-faire à quelques chanceux stagiaires.
Yasmina Katou, les Journées européennes des métiers d'art, c'est donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Un mot de sport, victoire du PSG 1-0 hier à Toulouse. Les Parisiens peuvent être sacrés champions de France dès la semaine prochaine. Et puis en tennis, Federer a décroché le 101e titre de sa carrière en remportant la finale du Master 1000 de Miami. C'était face à l'Américain John Isner.
Musique. Les Rolling Stones ont annoncé samedi dernier de le report de leur tournée aux États-Unis et au Canada parce que Mick Jagger est souffrant. Et on ne sait pas ce qu'il a. J'espère que tout ira bien. 75 ans, Mick.
Ben oui.
Et quand il est sur scène, il n'a pas d'âge, il bouge, il participe, il nous rend rock. Donc on espère qu'il va vite se soigner, qu'il viendra chanter en France. Je sais que vous êtes plus fan de Joey Starr, Hélène Zelani, mais quand même, les Stones. C'était le journal de 7h.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et il est 7h11, l'heure de retrouver Martin Fenot, Nico, sur le terrain, comme chaque jour.
Bonjour Martin, vous êtes où ce matin ?
Bonjour Nikos. Alors écoutez, ce matin je suis sous un monument dont certaines statues ont été vandalisées, des œuvres que des restauratrices réparent en ce moment. Je me trouve sous l'Arc de Triomphe, en haut des Champs-Élysées. Il y a 4 mois, jour pour jour, hein, vous vous souvenez, j'étais ici au même endroit au lendemain des dégradations commises pendant une manifestation des Gilets jaunes. Eh bien aujourd'hui, je vous emmène auprès d'Agnès Leboudec qui reconstitue les œuvres un peu comme un puzzle. Écoutez, vous allez comprendre.
Je sais que nous, on va mettre plusieurs semaines à réparer ce qui a été fait en quelques minutes. Nous, on a étalé ces petits morceaux. On a essayé de voir à quel endroit ils allaient. On consolide, on colle. Personnellement, j'ai beaucoup de fierté à le faire parce que je pense que je vais redonner à cette œuvre une identité qu'elle n'avait plus. Ma fierté, c'est de pouvoir montrer après au public quelque chose qui sera beau.
On l'entend. Est-ce que toutes les statues vont retrouver leur aspect initial, leur aspect d'origine, Martin ?
Alors, pas tout à fait. Écoutez, le conservateur du lieu, Bruno Cordeau, pour lui, ces dégradations font désormais partie de ses œuvres.
On s'attache à garder la trace de la restauration. Donc, il restera toujours une trace. On ne sait pas encore si le rebouchage se fera légèrement en retrait, si la patine sera légèrement différente. Bref, ça restera un épisode de l'histoire du monument.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'Arc de Triomphe va garder les stigmates des violences ?
Oui, exactement, mais des stigmates presque invisibles. Hein. C'est surtout la mémoire des visiteurs qui reste marquée. Écoutez ce couple venu de Reims.
Bah voilà, là, c'est certainement, il y avait des tags à cet endroit-là. On voit des marques effacées, donc on pense au mouvement à ce moment-là, quoi. Bah, ils se battaient pour une cause, mais après, il y a eu quand même beaucoup de dégradations. On se souvient forcément des images. Et,
bah, les images qu'on a vues à la télé, avec les statues cassées, les choses comme ça, ouais. On y repense.
Combien de temps va prendre cette restauration, Martin Fenot ?
Alors, ça a commencé il y a 3 semaines et ce sera fini courant mai. Restauration à laquelle vous pouvez assister puisque les visiteurs de l'Arc de Triomphe peuvent observer les restauratrices en train de travailler sur la maquette du monument ou encore sur la célèbre statue du génie de la patrie.
Merci Martin Fenot depuis l'Arc de Triomphe à Paris en pleine restauration.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, l'édito éco avec vous, Nicolas Barré, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Et vous allez en surprendre plus d'un ce matin parce que vous nous dites qu'il faudrait s'inspirer de Donald Trump.
Oui voilà, et notamment en politique industrielle, vous allez voir.
Vous nous expliquerez dans quelques instants. À 7h20, utilisez-vous des trottinettes, vous qui nous écoutez ce matin, des vélos, des scooters en libre-service, parce que le dispositif cartonne dans les grandes villes, mais il arrive quand même à transformer les trottoirs en véritable jungle. Les municipalités... Riposte ce matin, dossier à suivre dans Europe 1. Va plus loin, tout de suite.
Très belle matinée sur Europe 1, il est 7h13. Les principaux titres de l'actualité à revenir ce matin, Nico Saliagas.
Dramatique intoxication alimentaire dans un EHPAD de Haute-Garonne, au Lerme, près de Toulouse. 4 résidents sont morts, 15 sont dans un état d'urgence relative. Conseil des ministres ce matin à l'Elysée avec 3 nouveaux visages. Sibeth Ndiaye, qui devient porte-parole du gouvernement. Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Et Cédric O, secrétaire d'État au numérique. Réquisitoire aujourd'hui au procès de Bernard Tapie pour escroquerie et détournement de fonds publics. Il risque jusqu'à 7 ans de prison. Football, le Paris Saint-Germain peut dire merci à Kylian Mbappé qui a marqué le but de la victoire hier soir à Toulouse. Score final 1-0. Les Parisiens se rapprochent encore du titre.
Europe 1.
Et c'est l'heure à présent, Nikos, de l'édito éco avec le Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Nicolas Barré, évidemment, depuis le début de cette saison, vous le suivez, toujours précis, il est le directeur de la rédaction du journal Les Échos et ce matin, vous allez nous parler du jackpot, ce jackpot qui nous vient de nos amis américains. La politique fiscale de Donald Trump a permis aux multinationales américaines de rapatrier des sommes colossales aux États-Unis.
Oui, 665 milliards de dollars de cash, l'équivalent du PIB de la Suisse, un quart du PIB français. Alors, par quel miracle cet argent est-il revenu? Eh bien, au fil des années, vous savez, les grandes firmes américaines, Microsoft, Coca-Cola, etc., ont accumulé à peu près 4 000 milliards de profits à l'étranger qu'elles n'avaient pas ramenés aux États-Unis parce que, en général, l'impôt sur les sociétés aux États-Unis est plus élevé qu'à l'étranger. Trump a donc changé tout ça en appliquant un taux très bas pour le rapatriement de ses profits. Résultat, l'argent revient. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que tout ça, ça s'inscrit dans une stratégie très très ambitieuse.
C'est pas une stratégie à court terme pour Donald Trump.
Non, c'est pas juste un coup. C'est-à-dire, la stratégie, c'est de tout faire pour favoriser l'investissement, notamment l'investissement industriel. Alors, le rapatriement des profits en fait partie, même si une partie des fonds sert en fait à payer des dividendes plus qu'à investir. Mais c'est pas la seule mesure fiscale qui va dans ce sens-là. Trump a aussi baissé donc massivement l'impôt sur les sociétés de 35 à 20%. Et surtout, il a pris une mesure extraordinairement puissante pour l'investissement qui consiste à permettre aux entreprises de déduire de leurs résultats leurs dépenses d'investissement dès la première année. Une entreprise qui achète une nouvelle machine ou des logiciels, par exemple, va pouvoir déduire tout de suite cette dépense. Et ça, c'est vraiment un game changer, comme on dit. Ça change vraiment la donne.
Oui, en clair, c'est investissez aux États-Unis, on vous déroule le tapis rouge. Quoi.
Exactement. Et c'est là que j'en viens à nous. C'est-à-dire, la France et beaucoup de pays européens ont accumulé un retard très important en matière d'investissement. Nos usines vieillissent, nous avons des machines moins performantes, nos parcs de logiciels ne sont pas les plus en pointe. Et si nous n'investissons pas davantage, eh bien, nous compromettons les emplois de demain. Alors, je sais que les Européens ont horreur de se dire ça, mais nous ferions bien de nous inspirer de ce que fait Trump. Certaines industries, comme l'automobile, sont à un tournant. Il faut des investissements massifs dans l'intelligence artificielle, l'électrique, les nouveaux matériaux, etc. Avec Trump, les États-Unis mènent une politique industrielle très ambitieuse, j'allais dire à la chinoise. Et nous, eh bien, on se laisse distancer. On doit se réveiller, sinon l'industrie de demain sera américaine et chinoise.
En gros, vous nous dites Trump, qui est critiqué sur le vieux continent pour sa politique migratoire notamment, concernant son économie,
concernant
il est plutôt dans le vert.
La fiscalité, voilà, exactement.
Nicolas Barré, l'édito éco, tous les jours.
Et il est 7h19, Europe 1 va plus loin, trottinettes électriques, vélos, scooters en libre-service. Dans les grandes villes, leur nombre explose, un enfer pour les piétons, les municipalités ripostent.
On les loue en quelques clics sur son propre téléphone et une fois le trajet terminé, on les pose souvent, voilà, n'importe où, sur les trottoirs, en plein milieu, et c'est là que ça coince. Bonjour Victor Delorme.
Bonjour Nicolas.
Les habitants sont excédés, du coup les municipalités commencent à prendre des mesures concrètes.
Oui, la mairie de Paris reçoit des dizaines de plaintes tous les jours, ces véhicules en libre-service sont arrivés l'été dernier dans nos villes. Ils séduisent de très nombreux utilisateurs. Il y en a 15 000 dans les rues de la capitale. Dans quelques mois, la ville estime même qu'il y en aura 40 000. C'est colossal. Il faut donc trouver une solution. Et tout à l'heure, au Conseil de Paris, la mairie devrait adopter un système de redevance pour ces véhicules.
Une redevance, c'est une taxe. Comment cela pourrait-il marcher?
Et ben, chaque entreprise qui met 500 vélos à disposition devra s'acquitter d'une redevance de 20 euros par an et par vélo, 50 euros par trottinette et 60 euros par scooter. Avec cet argent, les mairies vont donc créer des emplacements dédiés pour garer ces véhicules et pour éviter surtout qu'il y en ait un peu partout sur les trottoirs. La première mairie à avoir mis en place cette taxe, c'est Lille. C'est moins cher qu'à Paris, 11 euros par trottinette. À Strasbourg, c'est 7 euros par an. À Toulouse, 10 euros. À Bordeaux, la redevance existe également. Et justement, Stéphane Place, à Bordeaux, pour améliorer la cohabitation entre les piétons et les personnes qui utilisent ces nouveaux modes de transport, la ville mise surtout sur la concertation.
À la sauce bordelaise, avec une bonne dose effectivement de discussion sur l'utilisation de l'espace public. Actuellement, la mairie travaille avec les porteurs de projets de free-floating pour les vélos, trottinettes, scooters. Objectif, d'ici la fin de ce mois, établir une charte. Jean-Louis David est l'adjoint au maire de Bordeaux.
Par exemple, on va obtenir de ceux et celles qui vont s'installer sur l'espace public de le faire dans les espaces vélos qui sont réservés, dans les espaces scooters et dans les futurs espaces que l'on créera. Ce qu'on ne veut pas, c'est des objets vélos, trottinettes, scooters, etc., n'importe où. Nous, on s'est dit que 200 trottinettes par opérateur sur l'espace public, c'est un maximum.
Fois combien d'opérateurs?
Alors, fois 4, fois 5, fois ceux qui vont avoir un modèle économique intéressant sur la ville de Bordeaux. Et on verra au fur et à mesure. Soit c'est trop, soit c'est pas assez.
Croisé dans Bordeaux, ces deux utilisatrices de trottinettes électriques qu'elles ont pris l'habitude de louer.
C'est ça qui est cool, c'est qu'on peut les trouver n'importe où dans Bordeaux, etc. Donc ça, c'est intéressant. Après, si on doit aller dans un endroit pour le récupérer, etc., c'est moins pratique du coup.
Est-ce que vous pensez qu'il faut un cadre? Jusqu'où doit aller le cadre?
Je pense que oui, dans le sens où il ne faut pas les laisser n'importe où. Le but, c'est pas de gêner piétons et autres utilisateurs.
utilisateur.
Alors attention, dialogue, concertation, quelques semaines cet été pour laisser à chacun le temps de prendre les bonnes habitudes, mais ensuite, la police municipale aura pour consigne de sévir.
On vient de l'entendre, à Bordeaux, il existe donc cette taxe, mais aussi des quotas, et c'est pas fini. Les mairies en appellent aussi aux citoyens et aux civils.
Oh oui, la mairie de Lyon vient de faire adopter une charte de bonne conduite que doivent signer les opérateurs. Deux obligations, limiter la vitesse des trottinettes électriques, 25 km/h maximum.
C'est déjà pas mal.
Oui, c'est déjà pas mal, et obliger ces véhicules à rouler uniquement sur les pistes cyclables. Selon nos informations, la ville de Paris va aussi faire signer une charte aux entreprises. Mmh. L'idée, comme l'explique l'adjoint au transport Christophe Nadjowski, c'est de ne pas se faire déborder par ces nouveaux véhicules.
On est engagé donc dans cette démarche de dialogue, mais d'un dialogue ferme avec les opérateurs pour leur faire comprendre que pour que leur service de mobilité soit accepté et ne suscite pas l'hostilité, eh bien, il faut encadrer les choses. Ils ne veulent pas accepter les règles collectives que nous énonçons. Cela pourra peut-être se traduire même par leur disparition à terme de l'espace public parisien.
Alors, on a vu que les municipalités s'attaquaient aux opérateurs et les utilisateurs dans tout ça.
Alors, Paris a lancé il y a quelques semaines une campagne de verbalisation, 90 euros. Si vous êtes piqué en train de rouler justement sur un trottoir avec une trottinette, toutes les villes ne sont pas du même avis, elles hésitent entre la réglementation de ces nouvelles pratiques et l'envie aussi de ne pas freiner ces moyens de transport écologiques.
Est-ce que cette taxe, Victor, va aussi faire monter le prix pour l'utilisateur ?
Non, les usagers, les utilisateurs, eux, ne paieront pas davantage car ce sont les opérateurs qui fixent directement leur prix et leur tarif.
Les municipalités face à la folie des locations en libre-service. Merci Victor Delande pour ce dossier signé Europe 1 va plus loin. Ça n'existe pas, tiens, puisque vous êtes là, Nice Mbida, des trottinettes qui reviennent toutes seules, qui se garent toutes seules.
Uber travaille dessus parce que c'est un vrai véritable problème dans toutes les villes du monde, notamment aussi pour les recharger, parce qu'il faut les récupérer aussi pour les recharger.
Et oui, vous pouvez réagir à ce sujet et puis à toute l'actualité par téléphone 39 21 50 centimes la minute et sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Puisque vous êtes là, Nice Mbida, vous allez nous parler de portiques de sécurité.
Oui, qui vont disparaître parce que maintenant on va remplacer les portiques de sécurité par des portes, par des couloirs qui eux-mêmes pourront détecter les armes à feu et les couteaux.
Directement, sans directement. Qu'on soit fouillé, pas de... Non. Ouais. Bon, très bien, à tout de suite.
Bon réveil avec Nikos Aliagas sur Europe 1, il est 7h24. Il est 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour et l'innovation, Nico, c'est avec Anis Mbida.
Alors on connaît tous, chère Céline et auditrice, auditeur, les portiques de sécurité dans les lieux publics, eh bien ils pourraient disparaître tout simplement. Et Anis, on va désormais pouvoir repérer quelqu'un qui a une arme sur lui ou des stupéfiants ou des explosifs à distance sans même le toucher.
Oui, c'est assez bluffant, c'est un radar minuscule que l'on peut cacher dans un mur, dans un plafond, dans une porte. Donc de l'extérieur, on ne voit rien du tout. On n'a pas du tout l'impression de passer par un contrôle de sécurité. Et pourtant, il va scanner toutes les personnes qui arrivent et être capable de reconnaître ce qu'on appelle la signature électromagnétique de tout un tas d'objets.
Comme par dans exemple, les films, en fait.
Voilà, un couteau, un pistolet, une grenade, une ceinture d'explosifs. Même quand ils sont cachés sous des vêtements ou dans un sac, du coup, les agents de sécurité pourront cueillir la personne discrètement au moment où elle s'attend le moins.
Est-ce que ça marche quelque part déjà, ça ?
Oui, c'est en test dans plusieurs casinos à Las Vegas. Vous imaginez, avec toutes les allées et venues qu'il y a dans un casino, c'est impensable de faire passer tout le monde sous des portiques de sécurité, alors que là, on va pouvoir repérer toutes les armes à feu quand quelqu'un est au comptoir, dans un ascenseur ou bien à l'enregistrement directement. L'objectif de cette expérience, c'est de valider que le service marche bien, parce qu'il ne faudrait pas confondre un pistolet et un sèche-cheveux, parce que c'est en métal. Et ça s'appelle Pat Scan et c'est développé par les Canadiens de Patriot One Technology.
En même temps, qui se balade avec un sèche-cheveux dans un casino.
dans sa valise. On pourrait imaginer que c'est un pistolet.
D'accord, si vous le dites comme ça, je pensais que c'était
celui qui porte sur lui. Il ne faut pas arrêter les gens pour n'importe quoi.
Exactement. Anissé Mbida pour l'innovation.
L'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr. Dans deux minutes, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabral.
Céline déjà concentrée, elle vient de s'installer dans son studio pour le journal de 7h30. À 7h40, Jean-Michel Apathy va nous parler effectivement de la retraite. Alors, l'âge de la retraite recule ou pas ? Qu'en pense le président de la République ? Jean-Michel a sa petite idée. Et vous, est-ce que vous avez une petite idée, Laurent Cabral ?
Sur le temps qu'il fait, oui.
Exactement.
Alors, il pleut déjà un petit peu à Biarritz et à Dax, donc vous voyez que les pluies arrivent par le sud-ouest et le Pays Basque. Ces pluies vont gagner progressivement l'Aquitaine et le Béarn dans son ensemble, et dans l'après-midi, nous aurons, disons, quelques averses sur le Poitou-Charentes, le Limousin, l'Auvergne.
Ça monte vite.
Oui, oui, le Midi-Pyrénées, le Roussillon, ça grimpe. Et nous aurons un ciel voilé à l'avant de la perturbation sur la Vallée de la Loire, la Bourgogne, la Franche-Comté, sur Rhône-Alpes et sur la Provence-Côte d'Azur. Et quand même, du soleil sur une bonne moitié nord de la France, toutes les régions qui bordent la Manche et la mer du Nord. Nous en aurons aussi en Champagne-Ardenne. En région parisienne, il ne pleuvra que la nuit prochaine ou en fin de journée, en Lorraine et en Alsace. Il fera 16 degrés à Caen, les températures sont encore très douces. 18 à Lille, 19 à Marseille, 20 à Toulouse, 21 à Paris et 22 à Lyon. Et il fera 18 degrés dans une commune que je vous rappelle tous les ans à le même jour. Allez, à Haute-Marne, la commune de Poisson, 18 degrés.
Ah, vous le faites pour le 1er avril. Okay.
Et nous avons 18 degrés à Avril, qui est une autre commune, bien, en Meurthe-et-Moselle. Et les deux communes sont jumelées, Poisson-Avril.
Voilà. Bien joué Laurent Cabron. Voilà, tout à l'heure. À 7h45, les catholiques lancent eux aussi leur grand débat. Ils veulent changer l'Église. Dans un instant, je reçois la théologienne Véronique Margron. Elle propose 12 chantiers pour restaurer l'institution. Sexualité, mariage des prêtres, place des femmes au sein de l'Église. Elle n'élude aucune question. À 7h45, elle sera mon invitée. Excellent réveil à tous sur Europe.
En ce lundi 1er avril, il est 7h30.
7h, 9h. Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Le journal avec Céline Kallmann.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Direction tout de suite le sud de Toulouse. 4 personnes sont décédées, semble-t-il, après une intoxication alimentaire dans la maison de retraite La Chêneraie, dans le village de Lerme. Benjamin Péter, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans la région. 15 résidents sont en état d'urgence relative ce matin.
Oui, en fait, c'est après le dîner hier soir que 22 personnes en tout ont été prises de malaise. C'est ce qui explique qu'on privilégie cette hypothèse de l'intoxication alimentaire, même si pour le moment, la cause précise n'a pas été identifiée. Vous le disiez, 4 personnes sont décédées, 15 autres sont-elles en état d'urgence relative. C'est le bilan provisoire établi par la préfecture qui a mis en place un centre opérationnel départemental en lien avec l'ARS, l'Agence régionale de santé. Un centre d'accueil des familles des victimes a été ouvert à proximité de la mairie du Lerme. Une cellule médico-psychologique va également être ouverte. Alors cette maison de retraite, la Chêneraie, elle est plutôt récente, elle a ouvert fin 2006 au Lerme, un établissement haut de gamme qui se targue sur son site internet de ne pas avoir recours à une cuisine centrale, à des plats réchauffés, mais d'embaucher plusieurs cuisiniers qui préparent les repas sur place, une cuisine régionale précise-t-il. Des investigations sont donc en cours pour déterminer l'origine exacte de cette intoxication.
Merci Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 dans la région de Toulouse. Fin de la trêve hivernale, des milliers de familles sont à nouveau menacées de devoir quitter leur logement. La mesure concerne aussi les personnes qui bénéficient des places d'hébergement.
Justice pour Ange, voici le mot-clé qui a envahi les réseaux sociaux tout le week-end.
Ange, un jeune homme de 32 ans qui est décédé samedi à l'hôpital, 2 jours après avoir été contrôlé par la police sur le périphérique parisien. Plusieurs personnalités politiques du monde du spectacle sont montées au créneau pour soutenir sa famille qui réclame la vérité. Une enquête est ouverte et les premiers éléments laissent penser qu'on est loin des violences policières. Pierre de Cossette.
Au départ, c'est un contrôle, comme les motards de la préfecture de police en font des centaines. Mais celui-là, dans la nuit de mercredi à jeudi, va tourner différemment. Le conducteur a bu et présente un permis de conduire qui n'est pas le sien et qui est invalidé. Quand soudain, cet homme de 32 ans met quelque chose dans sa bouche pour l'avaler. Les policiers veulent savoir, c'est une substance blanchâtre, de la cocaïne, les premiers tests l'ont confirmé. Ils lui en font recracher une 30aine de grammes, mais le suspect a mâché la boulette et se met à convulser. Son hospitalisation d'urgence n'y fera rien. Ange décède 48 heures plus tard. Une autopsie est prévue aujourd'hui pour déterminer les causes de sa mort, mais les policiers en sont convaincus, il s'agit de l'overdose d'un homme qui craignait d'être pris la main dans le sac. La famille, elle, ne comprenait pas pourquoi elle n'avait été prévenue que 24 heures après l'hospitalisation. Selon nos informations, les enquêteurs ont eu besoin de temps pour identifier le suspect avec certitude. Un permis de conduire qui n'était pas le sien, plusieurs identités, plusieurs adresses pour cet homme déjà connu des forces de l'ordre pour conduite sans permis et usage de stupes, et qui aurait paniqué lors de son interpellation.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Baptême du feu ce matin en Conseil des ministres pour les 3 entrants. Au gouvernement, principale surprise de ce mini-remaniement annoncé hier soir, l'entrée de la conseillère presse d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Sibeth Ndiaye. Elle devient porte-parole. Cédric O lui remplace Mounir Majoubi. Et Amélie de Montchalin est nommée aux affaires européennes. Elle s'est exprimée cette nuit au micro de nos confrères de BFM.
Je pense que sur beaucoup de sujets, les Français attendent des solutions concrètes. Et mon métier, ou ma nouvelle fonction, ça va être de mettre toute mon énergie à ce que dossier par dossier, eh bien, on avance sur le terrain avec les partenaires européens et qu'on arrive à concrètement montrer que l'Europe apporte des solutions aux Français.
Amélie de Montchalin qui assistera donc tout à l'heure à son premier conseil des ministres, conseil avancé en raison du déplacement du chef de l'État mercredi en Bretagne.
C'est la première fois que le souverain pontife s'exprime sur son refus d'accepter la démission du cardinal Barbarin.
Oui, dans l'avion qui le ramenait du Maroc, le pape a répondu aux questions des journalistes. Il a insisté sur la présomption d'innocence concernant Mgr Barbarin.
Oui, sur le cardinal Barbarin.
En ce qui concerne le cardinal Barbarin, il a donné sa démission. Mais moi, je ne peux pas moralement l'accepter. Car juridiquement, comme aussi dans la jurisprudence mondiale classique, il y a la présomption d'innocence aussi longtemps que le dossier est ouvert.
Durante il tempo che la causa sia aperta.
Il a fait un recours et le dossier est ouvert. Ensuite, quand le second tribunal rendra son jugement, on verra ce qu'il se passera.
Et je rappelle que le cardinal Barbarin a fait appel des 6 mois de prison avec sursis dont il a écopé pour non-dénonciation d'abus sexuels. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a nommé un nouveau gouvernement censé apaiser la contestation qui dure depuis plus d'un mois. Mais hier soir, une centaine de personnes ont manifesté dans le centre d'Alger affirmant que les rassemblements n'allaient pas s'arrêter. Le Venezuela toujours au ralenti. Le gouvernement a annoncé pour aujourd'hui la réduction de la journée de travail et les cours dans les établissements scolaires sont suspendus. Le ministre de la Communication justifie cette décision par la nécessité d'assurer la continuité du service de distribution électrique.
Une partie de la collection vinyle de la discothèque d'Europe 1 a été vendue hier à l'hôtel Drouot.
Oui, une vente aux enchères des 45 ou 33 tours des trésors musicaux qui ont évidemment séduit les passionnés rencontrés par Claudia Bertram.
Ces vinyles sont exceptionnels. C'était justement des 45 tours uniquement distribués dans les radios.
J'ai acquis ce beau 45 tours comme neuf de Charlotte Leslie. Il a un petit timbre sur lui, discothèque européen, donc ça lui ajoute un petit peu de valeur, comme un petit pédigré.
Il y a un 45 tours que je cherche depuis à peu près 15 ans, qui est le premier générique de Recréa 2, et c'est le tout premier disque où figure Dorothée avant même qu'elle soit chanteuse. Je travaille à Europe 1 depuis bientôt 10 ans, donc ça fait autant de temps que ce disque était sous mes pieds sans que je le sache, et je suis très très content.
Je suis venu acheter des disques de jazz, essentiellement. Moi, j'ai commencé à aimer le jazz grâce à deux messieurs, Franck Thénault et Daniel Filippacchi. À l'époque, ça s'appelait Europe numéro 1 et l'émission s'appelait Pour ceux qui aiment le jazz. Donc c'était un double, triple attachement à cette musique.
Un propos recueilli par Claudia Bertram. 1h03, c'est le temps qu'il a fallu à Roger Federer pour gagner la finale du Master Mill de Miami face à l'Américain John Isner. Le Suisse remporte le 101e titre de sa carrière.
Merci Céline Kallmann. Axel de Tarlé, écoutez très attentivement ce reportage sur la vente de la collection vinyle de la discothèque d'Europe 1. Ça vous a interpellé?
Mais oui, parce que quand j'étais petit, que j'écoutais le hit parade de Jean-Louis Lafont sur Europe 1 dans les années 70, j'avais 9-10 ans, j'étais persuadé que c'était les groupes qui avaient Police dans le studio d'Europe 1 qui jouaient. Et un jour, Jean-Louis Lafont dit « Ah, je me suis trompé, on a mis la face B ». Et donc là, je me suis rendu compte que c'était tout bêtement des 45 tours qu'on passait à la radio. Et oui, un monde s'est écroulé.
Mais non, mais les gens pensent aussi que vous n'êtes qu'un robot, une intelligence artificielle. Mais ils peuvent vous voir sur Europe1.fr. Dans quelques instants, vous allez
et
nous parler
y a pas de face
quoi
B.
Vous allez nous parler de quoi?
Oui, je vais parler de l'Allemagne qui est empêtrée, la grande victime du scandale du glyphosate.
Bon, donc, c'est moins drôle. Hein
et dans un instant, on parlera aussi ensemble.
Oui, du recul de l'âge de la retraite, 62-65 ans, c'est l'un des grands débats. Il paraît qu'Emmanuel Macron hésite et on va conseiller Emmanuel Macron ce matin.
Jean-Michel Apathy, Axel de Tarlé, dans un instant sur Europe 1.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 7h37. Il est 7h39, Nico Saliagas, d'or de retrouver Jean-Michel Apathy.
Faire passer l'âge de la retraite de 62 à 65 ans, c'est le débat qui agit toute la classe politique. Jean-Michel Apathy, est-ce qu'on sait ce que pense Emmanuel Macron?
Non, on ne le sait pas avec précision. C'est un débat évidemment important qui concerne tout le monde et c'est Emmanuel Macron qui en a la clé puisque c'est lui qui finalement va arbitrer. Évoquons le fond avant de rentrer dans le détail des positions des uns et des autres. Le fond, c'est que beaucoup de responsables politiques pensent que dans les 20 ans qui viennent, pour financer les régimes de retraite, pour financer aussi la dépendance, c'est-à-dire l'entrée dans le grand âge de beaucoup de Français d'ici à 2050, il faudra que les actifs travaillent plus longtemps, donc 62, 65 ans. Beaucoup de responsables politiques entrent dans ce débat et hier, invité du grand rendez-vous, Xavier Bertrand, qui est le président de la région Hauts-de-France, a dit ceci.
Si on a le courage de dire la vérité, si on a le courage de prendre des mesures qui sont très claires,
64 ans pour commencer. Et si l'espérance de vie continue à bien progresser, dans ces conditions-là, on serait à 65 ans à terme.
Voilà, donc le ministre ou la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dit la même chose. Édouard Philippe, avec un peu de prudence, pense la même chose. Et donc, on en revient à la clé de voûte. Qu'en pense Emmanuel Macron ? Alors, on a un indice, son programme présidentiel. En mars 2017, Emmanuel Macron publie l'ensemble de son programme et à propos de la retraite, il est écrit ceci, je lis précisément ce qui était écrit, « Nous ne toucherons pas, c'est clair ça, à l'âge de la retraite et entre parenthèses, 62 ans. » Donc on peut estimer que tout est dit, mais on sait que la politique, c'est à la fois plastique et de mauvaise foi. Donc Emmanuel Macron, dans 15 jours, quand il rendra les conclusions du grand débat, ou un peu après, il pourra dire, écoutez mes chers amis, en 2019, je n'ai pas la même vision du problème qu'en 2017, et donc on change, je vous ai dit, nous ne toucherons pas, et nous touchons. Voilà. Simplement, la crise des Gilets jaunes, justement, complique le problème. Parce que cette crise, entre autres choses, a montré qu'il y avait une crise de confiance dans la démocratie, et que les gens voulaient être beaucoup plus consultés. Emmanuel Macron y répond, par exemple, à propos de l'impôt sur la fortune, en disant « mais j'ai été élu pour 5 ans, et quand, dans ma campagne électorale, j'ai dit « je supprimerai l'ISF », je ne vous ai pas pris par surprise, je l'ai fait. Donc, ne me demandez pas aujourd'hui de le rétablir, puisque le pacte que nous avions passé ensemble était celui-là. Mais si on applique ce raisonnement à la retraite, alors il ne faut pas changer l'âge de départ à la retraite. »
C'est vrai pour d'autres choses.
Bien sûr, Emmanuel Macron est ficelé, prisonnier de la promesse qu'il a faite. Et il n'a qu'un moyen de se sortir du dilemme, parce que, évidemment, qu'il faudra allonger l'âge du départ à la retraite. C'est le référendum. On parle de référendum à propos de tout et de rien. On dit, ah, il faut consulter les Français. Eh bien, et puis on ne sait jamais sur quelle question. Voilà une question simple et claire. Êtes-vous d'accord avec le recul de l'âge à la retraite de 62 à 65 ans ? Ce serait une belle campagne électorale. On pourrait expliquer vraiment, là, devant tous les citoyens, les enjeux. Et on ne sait pas, on ne peut pas préjuger de la réponse parce que ce peuple est un peuple intelligent. Donc, monsieur le Président, si vous nous écoutez, à propos de l'âge de départ à la retraite, si vous voulez le reculer, passez par le référendum, ce sera démocratique, citoyen, et ce sera une excellente décision.
Merci Jean-Michel Apathy.
Et on retrouve Axel de Tarle à présent, Nikos. La Caisse d'épargne vous présente le Zoom Eco. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Axel de Tarle, le modèle industriel allemand qu'on vante régulièrement serait en difficulté après le diesel, c'est le glyphosate qui le fait tousser.
Oui, alors quel est le lien entre l'Allemagne et le glyphosate de Monsanto, entreprise américaine ? Eh bien, c'est probablement le plus mauvais timing de toute l'histoire des rachats d'entreprises. Figurez-vous que l'américain Monsanto, donc qui fabrique le glyphosate, a été racheté en juin dernier par l'entreprise allemande Bayer. Donc juste avant tous ces procès et ces amendes en cascade, Bayer a racheté Monsanto en juin 2018, deux mois plus tard, août 2018, première condamnation par un jury californien, donc Monsanto jugé coupable du cancer d'un jardinier. Et la semaine dernière, rebelote, nouvelle condamnation. Alors cette fois plus inquiétant parce qu'il s'agit du cancer d'un simple particulier. Vous voyez, il n'était pas agriculteur ou professionnel. Et ça n'est qu'un début. Aux États-Unis, il y a 11 200 plaintes qui ont été déposées contre Monsanto. Donc c'est une catastrophe qui s'annonce pour Bayer, dont l'action s'écroule à la bourse de Francfort. Évidemment, le patron allemand de Bayer est très critiqué, d'autant qu'il a racheté Monsanto hors de prix, 63 milliards d'euros. C'est un record pour une transaction en Allemagne. En Allemagne, on le surnomme, ce PDG, le plus grand destructeur de valeur de l'histoire économique allemande.
Non mais c'est incroyable cette histoire. Comment un PDG avec de l'expérience et de cette envergure n'a pas vu venir tous ces procès liés au glyphosate ?
Eh bien, c'est symptomatique de l'Allemagne. Parce que ce patron allemand, il continue toujours à croire à son modèle Bayer, voyez, et à ce rachat, Bayer étant le champion mondial de l'agrochimie, demain il faudra nourrir 10 milliards d'êtres humains sur Terre, on a besoin des pesticides. C'est très révélateur de cette vision productiviste et très industrielle de l'économie allemande. Et c'est vrai, on peut faire un parallèle avec Volkswagen qui jusqu'au bout s'est accroché au diesel, car c'est l'ADN de l'économie allemande. Le moteur diesel, les machines-outils, les pesticides, l'agriculture intensive, on voit c'est un modèle très 20e siècle. Aujourd'hui, l'air est au service, à l'algorithme, au naturel, au bio. Et c'est là, bien sûr, un énorme défi pour l'économie allemande qui doit se réinventer.
Merci Axel de Tarlet.
C'était le Zoom Eco avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Comment réformer l'Église ? Les catholiques lancent eux aussi leur grand débat. Sexualité, mariage des prêtres, place des femmes. Dans un instant, les propositions choquent d'une théologienne engagée. Je reçois Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. Bon réveil à tous.
Excellent réveil avec Europe 1. Il est 7h45. Europe 1. suite les principaux titres à retenir ce matin, Nicolas Saliagas.
4 morts dans un EHPAD au sud de Toulouse. Ils auraient été victimes d'une intoxication alimentaire. 15 résidents sont en état d'urgence relative. 3 nouvelles têtes au gouvernement. Emmanuel Macron a fait entrer hier soir 3 de ses plus fidèles soldats. Sibeth Ndiaye devient porte-parole. Amélie de Montchalin est nommée aux affaires européennes. Et Cédric O remplace Mounir Majoubi au numérique. Les tarifs réglementés de l'électricité vont fortement augmenter en juin. Près de 6% de hausse. Le gouvernement estime avoir suffisamment aidé les ménages les plus modestes.
Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin la théologienne Véronique Margron pour son livre Un moment de vérité, coécrit avec Jérôme Cordelier aux éditions Albin Michel. Face aux abus sexuels qui frappent l'Église, elle propose 12 chantiers prioritaires pour restaurer l'institution.
Bonjour Véronique Margron.
Bonjour à vous.
Vous présidez la Conférence des religieux et religieuses de France. Vos fonctions pourraient vous inciter à un devoir de réserve, mais ce n'est pas le choix que vous faites. Vous prenez la parole de façon courageuse. Qu'est-ce qui vous pousse à le faire ? C'est la colère ?
C'est la colère et puis en même temps, justement, le fait d'abord d'être très lié à nombre de victimes, d'être aussi profondément d'Église et donc de souhaiter de tout cœur que, voilà, que l'Église à laquelle j'appartiens puisse aller de l'avant, puisse changer et puisse retrouver, redonner de la confiance à celles et ceux qui l'ont quittée et dont on peut comprendre qu'il l'ait fait.
Votre regard est aussi celui d'une femme au sein de l'Église. Vous avez plus de recul, plus de lucidité ?
Ah, je n'oserais dire cela. En tout cas, je n'ai pas la même position que la hiérarchie de l'Église qui est masculine. Mais je ne suis pas sûre que d'être une femme donne plus de lucidité en soi.
Mais de quoi souffre l'Église, entre autres, de la maladie du secret à propos des abus sexuels, de la pédocriminalité ? En tant qu'institution, elle est aussi responsable dans ce secret ?
Bien sûr qu'elle est responsable, puisque c'est elle qui l'a entretenu, ce secret, c'est aussi elle qui l'a consacré. Alors il faut toujours s'expliquer, c'est-à-dire, il est des bons secrets dans la vie, hein, quand vous allez chez le médecin, le secret avec votre conjoint, il est des bons secrets.
Des droits de réserve.
Oui, mais il est de très mauvais secrets, et en particulier quand le secret couvre l'institution, quand il couvre les agresseurs, et non qu'il est là pour défendre les victimes.
Coupable mais pas responsable, ou l'inverse, ça marche dans les deux sens ?
En tout cas, l'Église est responsable. Ce sont les hommes qui sont les coupables, ce sont les agresseurs. Mais elle est responsable.
En tant que personne morale, il y a aussi une inertie très forte des prêtres du diocèse de Lyon qui réclament le départ de Mgr Barbarin. On a encore entendu dans notre édition, il y a quelques instants, le pape qui s'est expliqué justement quant à son soutien vis-à-vis de Mgr Barbarin. Il a refusé la démission. Est-ce que c'est une faute pour vous ?
Non, je ne me permettrai pas du tout de dire cela. Disons que pour moi, c'est une incompréhension, mais sans doute que l'incompréhension, c'est d'avoir fait appel, y compris si je comprends bien que ceci est tout à fait légitime du côté de la conscience du cardinal Barbarin. Mais je pense que peut-être que la difficulté, c'est là qu'elle se trouve.
Le journal La Croix et l'hebdomadaire Pèlerin lancent l'opération Réparons l'Église. Ça n'est pas rien, c'est une sorte de grand débat, à l'heure où l'on parle justement du grand débat des Gilets jaunes, pour proposer des pistes de réforme. Il y a urgence. Chez les fidèles aussi, on appelle au changement.
Oui, il y a une grande urgence parce que je pense que les gens sont à bout de tout ce que nous découvrons depuis quelques années dans l'Église. Alors même qu'ils savent bien que l'immense majorité, évidemment, des prêtres, des évêques, des religieux, ne sont nullement coupable d'actes de pédocriminalité. Mais ceci finit par contaminer tout l'ensemble du corps. Et parce que chacun se dit, mais comment avons-nous pu en arriver là ? Donc, en effet, je pense que le changement est urgent, sachant qu'il prendra de nombreuses années, car on ne change pas les mœurs en quelques jours ni quelques mois. Mais il est essentiel.
Allons, Véronique Margron, concrètement, dans vos propositions, 12 chantiers prioritaires pour restaurer l'institution. Alors, il y a une question qui est au centre des débats, qui est toujours d'actualité, c'est le célibat des prêtres. Est-ce qu'il faut ouvrir le droit au mariage ? Comme chez les orthodoxes ou les pasteurs protestants ?
C'est une vraie question. Maintenant, je ne suis pas sûre que ça résolve la question du pouvoir.
Pourquoi ?
Parce que ce qui est en jeu, c'est d'abord un rapport au pouvoir. Un rapport au pouvoir qui paraît donner pour certains une
c'est
sorte de toute-puissance.
C'est pas l'abstention pour vous, c'est le pouvoir.
Non,
qui est
c'est
clé.
Le pouvoir. Donc il faut d'abord introduire de la pluralité dans le pouvoir, de l'altérité. C'est-à-dire que des femmes, des hommes, des laïcs, des célibataires aient accès à plus de responsabilités, à plus d'autorité dans l'Église. Après, nous verrons si, par ailleurs, le mariage des prêtres paraît justifié. C'est un autre débat.
Il y a aussi la formation au séminaire.
Oui, bien sûr, la formation au séminaire, la formation sur les questions, bien sûr, de sexualité, d'affectivité.
Parce qu'on n'en parle pas du tout.
Si, on en parle. Moi, j'ai enseigné plus de 20 ans dans des séminaires. Bien sûr qu'on en parle, mais sans doute qu'on n'en parle pas assez. Et le tout n'est pas d'en parler en termes de connaissances, mais aussi en termes d'accompagnement, en termes d'écoute de ces jeunes hommes et de la vie qu'ils choisissent.
Il faut mettre de la psychologie autour de la théologie ?
Alors, il y en a déjà, mais il faut en mettre davantage. Et il faut sans doute mettre aussi plus de soins au soutien même des séminaristes et des prêtres dans leur vie d'homme, aujourd'hui et demain, dans leur charge, qui souvent est une charge très solitaire et qui peut être une charge très austère.
Le pape François est qualifié de progressiste quand il est arrivé notamment au Vatican. C'est le son de cloche qu'on a entendu. Est-ce qu'il a les moyens de réformer ? Est-ce qu'il n'est pas un homme seul à la tête d'un pouvoir immuable et qui ne peut pas changer par la force des choses ?
Alors, immuable, non, parce que vous savez, la grande mutation du Concile Vatican II dans les années 60 montre que, heureusement, cette institution n'est pas immuable. Mais c'est vrai que c'est une très grosse et lourde machine.
Et conservatrice.
Par définition, d'une certaine façon, comme toutes les institutions qui pensent qu'il faut qu'elles se reproduisent pour se continuer. Donc, l'Église, elle, est basée sur l'Évangile, est fondée sur l'Évangile. Sa fonction est donc, au contraire, de pouvoir se réformer sans doute plus vite que d'autres institutions, alors même qu'elle a plus de mal, mais sans doute qu'elle a aussi plus de mal parce qu'elle est trop dans le même, autrement dit... Le fait qu'elle soit gouvernée que par des hommes célibataires qui ont une sorte de langage, de code entre eux, ce qui est normal, n'arrange rien.
Est-ce que le pape n'est pas aussi confronté à l'ambiguïté de notre époque ? Regardez la une du Figaro ce matin, le pape appelle l'Europe à accueillir plus de migrants, alors qu'une partie des catholiques et des chrétiens contestent cette politique et cette ouverture.
Pourtant, elle est au cœur de la tradition biblique. Donc il est bien normal qu'il le rappelle sans cesse.
La tradition biblique ne colle pas nécessairement à la réalité géopolitique. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, madame, pour ne pas que les églises se vident ?
Ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut peut-être donner plus de place à l'ensemble de la communauté chrétienne, à l'ensemble des laïcs, qu'ils se sentent co-responsables vraiment de la vie chrétienne et non pas simplement des consommateurs en quelque sorte, des messes auxquelles ils participent, auxquelles ils assistent.
Et donnez peut-être aussi votre livre au pape. Je rappelle que vous présidez la conférence des religieux et religieuses de France, Véronique Margron, et que votre ouvrage est intitulé « Un moment de vérité ». Vous l'avez coécrit avec Jérôme Cordelier. Il est publié aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été notre invité ce matin.
Merci à vous.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, retour sur ce drame cette nuit dans un EHPAD près de Toulouse. 4 morts à la suite de ce qui semble être une intoxication alimentaire. Les détails dès le début du journal de 8h avec David Doucan dans quelques instants. Et puis dans une minute, Jean-Philippe Ballas, fin de la trêve hivernale, l'occasion d'entendre une petite histoire de solidarité ce matin, tout de suite.
Excellente matinée à tous sur Europe 1, il est 7h55. Il est 7h57, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Tous les jours avant 8h, Jean-Philippe Ballas partage avec nous une petite histoire et ce matin, une chronique pour ne pas oublier ceux qui sont à la rue.
Alors soyons clairs les amis, le bonhomme n'est pas du genre à se plaindre, le pathos, le larmoyant comme il dit, ça l'intéresse moyen. N'empêche, ouais. Il pourrait vous en raconter des nuits de galère à chercher un abri, le sac à dos trop lourd qui vous ruine les épaules. Je vous présente Hervé, 47 ans, ex sans domicile fixe. Alors depuis quelques mois, c'est vrai, ça va mieux. Hervé a un toit sur la tête, des clés dans la poche, un petit logement et des petits boulots pour payer le loyer. Bon, simplement Hervé a encore un peu de mal à dormir sur un vrai matelas. D'ailleurs, il a gardé son sac de couchage tout prêt. Façon pudique de vous faire comprendre que dans sa tête, il n'a pas complètement quitté la rue. Bah oui, impossible de les lâcher, tous ses camarades d'infortune, ceux qui sont restés dehors. Hervé continue de les voir d'ailleurs, de prendre des nouvelles toujours. Il fait aussi partie d'un collectif pour que justement, on n'oublie pas les victimes de la misère. Mmh. Avec un chiffre qui vous glace, les 566 morts de la rue. 566, estimation en 2018, sans doute bien en deçà de la réalité. Et si je vous en parle ce matin, c'est parce qu'un rassemblement a lieu demain à Paris pour leur rendre hommage dans un square du 10e arrondissement. Vous avez aussi une pétition en ligne qui circule, vous la trouverez sans doute ce matin sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, ça peut sembler dérisoire, Hervé ne dit pas autre chose, il y a mieux à faire sans doute. Mais on sent aussi la colère, l'urgence, le besoin de se bouger pour les autres, voilà. J'ai parlé de tout ça hier soir avec Hervé, alors je crois qu'il aime écouter du Springsteen le matin pour se donner du courage. Ben vous savez quoi ? Ça tombe bien, parce que nous aussi. Even if we're just dancing.
Jean-Philippe Ballas, tous les jours sur Europe 1 pour la petite histoire.
À suivre le journal de David Doucan.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Et la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Laurent Cabrol, une dose de douceur encore pendant 24 heures.
Voilà, il y a encore de la bonne douceur aujourd'hui, entre 17 et 22 degrés. Mmh. Et nous avons du soleil sur les régions qui bordent la Manche, sur la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, sur Paris. Il ne pleuvra que la nuit prochaine, donc dans toutes ces régions, prévoyez une journée agréable. Mmh. Un ciel voilé sur la Bourgogne, la Franche-Comté, sur Rhône-Alpes et sur la Vallée de la Loire. Et des pluies qui arrivent, mais elles arrivent, elles sont petites, hein, elles sont surtout en mer. Elles arrivent par l'Aquitaine et le Béarn, il pleut un petit peu dans ces contrées-là. Et nous aurons des averses sur le Poitou-Charentes, l'Auvergne, le Roussillon et le Midi-Pyrénées dans le courant de la journée. Journée.
Merci.
Tout à l'heure, je vous parlais, je vous encore un petit mot, je voulais vous dire, je vous parlais du jumelage entre Poisson et Avril, vous savez, ces deux communes qui ont tous les deux 18. Bah oui, et eh bien, j'ai beaucoup d'appels sur le Twitter qui me disent, est-ce que les habitants de Poisson s'appellent les poissonniers? Eh bien, non.
Poissonniers.
On pouvait faire plus simple, mais non, ils s'appellent les pichenailles, tenez-vous bien.
Ah oui, si on vous appelle sur Twitter pour vous dire ça, c'est que la technologie a sauté un pas, là.
C'est bon.
On vous appelle directement, mais c'est extraordinaire. Bonjour les pichonniers. Et pichonnaises, pichonnières.
Pichonnières.
Et je suis sûre qu'ils sont tous à l'écoute d'Europe 1 ce lundi 1er avril.
Merci beaucoup.
Bon réveil à tous, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
David Doucan pour le journal. Bonjour David, à la une de l'actualité ce matin.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Que s'est-il passé dans la maison de retraite La Chêneraie à côté de Toulouse? 4 personnes âgées résidentes de cette EHPAD sont décédées. Il s'agit d'une intoxication alimentaire selon la préfecture. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Un remaniement et un nouveau visage. La conseillère presse d'Emmanuel Macron devient porte-parole du gouvernement. Le portrait de Sibeth Ndiaye dans un instant. Nous ne sommes qu'en avril et pourtant la sécheresse sévit déjà, en particulier dans le sud du pays. Reportage sur cette conséquence du dérèglement climatique dès le début de ce journal. À la fin de cette édition.
À 8h12, Vincent Herouette qui viendra nous parler d'un nouveau coup de froid dans les relations franco-allemandes. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara qui recevra Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise aux Européennes.
Europe 1. Nous l'apprenons ce matin, 4 résidents d'un EHPAD sont décédés, 15 autres sont hospitalisés. Il s'agit de la maison de retraite La Chêneraie dans la commune du Lerm au sud de Toulouse où nous rejoignons notre envoyé spécial Benjamin Péter. Bonjour.
Oui, bonjour.
Il s'agit, Benjamin, d'une intoxication alimentaire selon la préfecture.
Oui, je me trouve effectivement devant les pattes de la Chêneraie qui est située au cœur d'une zone résidentielle hein, dans cette commune du Lerm, un établissement récent, plutôt moderne, inauguré en novembre 2006, un établissement haut de gamme et qui se targue sur son site internet d'embaucher des cuisiniers qui préparent des plats régionaux sur place. Pas de cuisine centrale, pas de plats réchauffés et a priori pas de rupture de la chaîne du froid. Pourtant, c'est hier, juste après le dîner, que 22 personnes, un quart des résidents de cette maison de retraite, qui ont été pris de malaise. C'est ce qui explique que la thèse de l'intoxication alimentaire est privilégiée. 4 résidents sont donc décédés. 15 autres en urgence relative ont été conduits dans les établissements hospitaliers de la région et seraient désormais hors de danger. Alors sur place, des gendarmes filtrent l'entrée de l'établissement. Un centre d'accueil des familles des victimes a été mis en place juste à côté de la mairie, ainsi qu'une cellule médico-psychologique. Et des investigations sont en cours pour déterminer précisément l'origine de cette intoxication.
Merci à vous Benjamin Péter. Vous étiez en direct pour Europe 1 de la maison de retraite La Chêneraie, près de Toulouse.
La garde rapprochée d'Emmanuel Macron fait son entrée au gouvernement.
Oui, puisque 2 membres de son cabinet deviennent secrétaire d'État. Cédric O remplace Mounir Majoubi à Bercy en charge du numérique. Et une autre, proche parmi les proches, devient porte-parole du gouvernement. Il s'agit de Sibeth Ndiaye, jusqu'à présent conseillère presse du président. Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour David.
C'est donc Marguerite, quelqu'un que les journalistes connaissent bien. Mais le grand public va découvrir Sibeth Ndiaye.
Oui, elle avait pris l'habitude de travailler dans l'ombre. Elle va désormais se retrouver en pleine lumière. Sibeth Ndiaye, c'est une fidèle parmi les fidèles du chef de l'État. Ces deux-là travaillent ensemble depuis 2014. Emmanuel Macron est alors ministre de l'économie. Sibeth Ndiaye, chargée de ses relations presse, elle le suivra partout, au sein du mouvement En Marche, puis à l'Élysée. Les journalistes, vous le disiez, la connaissent bien. Elle qui n'hésite pas à les bousculer. Avec elle, la communication est ultra verrouillée. Le langage direct, un peu trop peut-être. J'assume parfaitement de mentir pour protéger le président, lâche-t-elle quelques semaines après l'élection d'Emmanuel Macron. Sibeth Ndiaye, c'est 15 ans d'engagement politique. Cette franco-sénégalaise qui a obtenu sa double nationalité en 2016 est entrée au PS pour soutenir Dominique Strauss-Kahn. Ces derniers temps, certains la disaient en plein doute. Il n'en est plus rien désormais. La voici porte-parole du gouvernement. Et on la verra à l'œuvre dès aujourd'hui, en fin de matinée, puisqu'elle débriefera son tout premier Conseil des ministres.
Merci à vous, Marguerite Lefebvre. J'ajoute que la députée La République En Marche, Amélie de Montchalin, qui, en d'autres temps, s'était engagée auprès d'Alain Juppé, remplace Nathalie Loiseau aux Affaires européennes. C'est devenu une habitude. François Hollande tacle Emmanuel Macron. Il déclare dans une interview au Parisien, je cite, « À vouloir tout bousculer, tout s'est arrêté. » L'ancien président de la République est à nouveau lancé dans une campagne médiatique à l'occasion de la sortie en poche de son livre « Les leçons du pouvoir », version augmentée de 3 chapitres. François Hollande exprime aussi une mise en garde. « L'extrême droite, un jour, arrivera au pouvoir en France. » Fin de citation.
On le sentait venir, on va pas se mentir, David. Du coup, c'est une confirmation qui va faire mal au portefeuille pour tout le monde.
Eh oui, les tarifs de l'électricité vont fortement augmenter à partir du mois de juin. Près de 6% de hausse, 5,9 exactement. Et le gouvernement ne fera rien pour empêcher cela. Maud Descamps.
Il n'y aura pas de coup de pouce. Voilà ce que l'on dit dans l'entourage du ministre de la Transition écologique. Avec le gel des tarifs de l'électricité et le chèque énergie, le gouvernement estime en avoir fait suffisamment pour aider les plus modestes. Les tarifs de l'électricité augmenteront donc de 5,9% le 1er juin prochain. Une augmentation contestée par l'autorité de la concurrence. Même discours à la CLCV. L'association compte porter l'affaire devant le Conseil d'État, prévient François Carlier.
C'est une hausse qui est parfaitement infondée. Injuste, elle n'a rien à voir avec l'augmentation des coûts d'EDF. La Commission de régulation de l'énergie considère qu'il faut augmenter le tarif réglementé d'EDF pour en fait éviter en gros la faillite des opérateurs alternatifs. Si le gouvernement suit cette recommandation, la CLCV saisira le Conseil d'État pour demander l'annulation de cette hausse.
Le médiateur de l'énergie s'étonne lui aussi de cette hausse puisque de fait le gouvernement prend le risque de cautionner une augmentation qui pourrait s'avérer injustifiée. Une solution serait de baisser la TVA. Hors de question, répond-on dans l'entourage de François de Rugy, qui rappelle que pour faire baisser leurs factures, les Français peuvent se tourner vers les fournisseurs alternatifs.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Le procès de Bernard Tapie entre dans sa dernière ligne droite. Après 3 semaines de débat, le ministère public prononcera aujourd'hui son réquisitoire. L'homme d'affaires est accusé d'escroquerie, je vous le rappelle, en cause l'arbitrage dont il a bénéficié dans l'affaire qui l'opposait au Crédit Lyonnais et qui lui avait permis de toucher plus de 400 millions d'euros.
Europe 1.
À suivre dans le journal, nous ne sommes qu'au mois d'avril et pourtant c'est la sécheresse. À tout de suite avec David Doucan.
Il est 8h08, votre matinale info, Nicolas Saliagas.
La suite du journal avec David Doucan. Dérèglement climatique, la sécheresse sévit dans le sud de la France.
Oui, 56 jours sans pluie, soleil, vent, chaleur. Les pompiers qui luttent déjà contre les premiers feux de forêt, c'est tout à fait inhabituel. Nous ne sommes qu'en avril. Reportage Nathalie Chevance.
Un mégot, un barbecue, des travaux mal maîtrisés. À 3 mois de l'été, voilà déjà ce que craint Jean Montagnac, le maire de Carry-le-Rouet, petite commune balnéaire entourée de pinèdes, où le débroussaillement des grands espaces n'est pas toujours respecté.
Je suis très inquiet. Il faut aller dans les collines pour voir la végétation, elle est sèche, comme au mois d'août. Il y a de la poussière sur les chemins, on sent que vraiment ça manque d'eau et la terre se craquelle. On a 3 mois d'avance par rapport à l'état que l'on connaît d'habitude. Et quand on connaît que régulièrement nous avons des feux, on est encore plus inquiet. Donc là, on n'est pas à l'abri d'un irresponsable. Les pompiers vont être plus sur le qui-vive à partir de maintenant.
Et les premiers feux ont déjà démarré. Résultat, les entraînements s'accélèrent. Le capitaine Bargès du SDIS des Bouches-du-Rhône.
Cette saison est préoccupante parce qu'on a déjà eu à intervenir notamment sur des feux chez nos voisins où il y a eu des feux de plus de 100 hectares. On est parti en renfort déjà en Corse, on est parti déjà en renfort chez nos collègues des Alpes de Haute-Provence, dans les Alpes-Maritimes. Le vent et la combinaison de la sécheresse, bien sûr, c'est préoccupant. Ce qui est déceptionnel, c'est cette longue période sans pluie.
Alors les pompiers et les élus situés en zone sensible multiplient les campagnes de prévention en espérant la pluie pour le printemps pour retarder le plus possible la saison des feux. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
En Algérie, le président Bouteflika a nommé un nouveau gouvernement, 27 ministres dont seulement 8 sont issus de l'ancienne équipe. Le chef d'état-major de l'armée, vous vous souvenez, qui avait proposé d'écarter Abdelaziz Bouteflika, reste pourtant en poste en tant que ministre de la Défense. Numéro 2 de ce gouvernement, j'ajoute que 2 chaînes de télévision algériennes avancent la possibilité d'une démission d'Abdelaziz Bouteflika dès cette semaine. L'élection présidentielle en Ukraine, le comédien et humoriste Volodymyr Zelensky est arrivé largement en tête du premier tour. Il devance le chef d'État sortant Petro Poroshenko. Un second tour est prévu pour les départager le 21 avril prochain.
Un peu de musique. Est-ce que vous aimez l'opéra comique, David ?
J'adore.
J'adore, en particulier le postillon de Longjumeau. C'est une comédie musicale d'Adolphe Adam, créée il y a 200 ans. Elle est malheureusement totalement tombée dans l'oubli.
Mais vous ne l'avez pas oubliée.
Non, moi j'y reste attaché, voyez-vous, Nicolas. Et je suis très heureux de vous annoncer
le postillon de Longjumeau.
Elle fait un retour spectaculaire en ce moment à l'Opéra Comique de Paris. Thierry Geffrotin. Cette musique avait totalement disparu des scènes d'opéra. Oublié, ce postillon de Longjumeau, depuis longtemps. Et pourtant, il a fait courir tout Paris à sa création en 1836. Il a donc fallu l'énergie, l'imagination, l'enthousiasme du metteur en scène Michel Faux pour ressusciter cet opéra comique.
Tout ce répertoire-là de l'opéra comique, il a été quand même assez méprisé à une époque parce qu'on avait envie de passer à autre chose. Il fallait peut-être laisser du temps pour que cette œuvre devienne un classique aussi, il y avait ça. Il n'avait pas peur à l'époque d'être léger, quoi. Je trouve qu'on a perdu ça et donc c'est bien qu'on remonte cette œuvre.
L'histoire du postillon de Longjumeau se passe sous Louis XV. Le roi charge le responsable de ses divertissements de lui trouver un nouveau chanteur. Ce sera donc un postillon doté d'une voix extraordinaire et prêt à tout pour faire carrière. L'ambition, le succès qui peut rendre fou, et même la bigamie et des choristes qui refusent de chanter, voilà les ingrédients de cette folle histoire d'une franche gaieté.
Et voilà, Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1.
Saint-Étienne Nîmes, c'est ce soir.
Oui, je vous le confirme, absolument. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Et puis hier, pour la 30e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est allé battre Toulouse 1-0. But de Kylian Mbappé.
Évidemment, heureusement qu'il est là. Il en met toujours un comme ça, by the way.
Exactement.
Je crois que les Stéphanois ne sont pas contents, les supporters.
Ah, pourquoi ?
Et qu'ils vont, justement parce que le match avait été décalé à cause des Gilets jaunes. Et je crois qu'ils veulent exprimer leur mécontentement ce soir.
On regardera.
Voilà. David Ducamp pour le journal de 8h.
Et si vous souhaitez réagir à l'actualité comme Isabelle, Sophie, Naïma, Clara ou encore Sylvie, faites-le en nous écrivant sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
8h12, l'heure de retrouver Vincent Hervouet, Nikos, pour jeter un coup d'œil à l'actualité internationale.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour à tous.
Nouveau coup de froid dans les relations entre la France et l'Allemagne. Expliquez-nous pourquoi.
Ben, ça commence comme un poisson d'avril. Tout à l'heure, l'Allemagne présidera le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, c'est pour rire. La présidence est tournante, sans droit de veto. Elle dure un mois et le 1er mai, le carrosse redeviendra une citrouille diplomatique. Mais d'ici là, les ambassadeurs américains, britanniques, chinois, russes et français diront « Monsieur le Président » à leurs collègues germaniques. Et il faut être mesquin pour y voir une revanche sur les 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Prendre sa place au sein du directeur des Nations Unies, reprendre toute sa place dans le monde et l'ambition naturelle de la puissance allemande. C'est aussi la priorité diplomatique de la France. Emmanuel Macron l'a juré, c'est écrit noir sur blanc dans le traité d'Aix-la-Chapelle qu'il a signé en janvier. Sauf que réformer l'ONU ne dépend pas du président et c'est beaucoup plus compliqué que de nommer Philippe Besson consul général au soleil de Los Angeles. Alors, l'Allemagne s'impatiente. AKK, la dauphine d'Angela Merkel, a dit tout haut ce que Berlin rumine tout bas. La France doit céder sa place à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'Allemagne. Double effet qui se coule, récupérer un strapontin et priver la grande nation voisine du fauteuil qu'elle occupe abusivement. Jean-Yves Le Drian a l'estomac solide, mais il a mal digéré la lettre ouverte de cette Valkyrie. Il était à New York ce week-end avec Heiko Maas, son homologue d'outre-Rhin. La France présidait le Conseil en mars, elle passe le relais à l'Allemagne et ça devait être comme une répétition générale, une promesse, alléluia. Sauf que le Breton a montré les dents. Il a dit « La France gardera son siège, tout ça est stupide ».
En réalité, la France est furieuse après l'embargo allemand sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite.
Ben oui, Berlin l'a reconduit pour 6 mois à cause de la guerre au Yémen. C'est une décision qui est tout à fait respectable. D'ailleurs, elle est faite pour ça, imposer le respect. Et ça ne lui coûte pas cher parce que les Saoudiens roulent en Mercedes, mais ils bombardent en français. Paris ne peut plus vendre à Riyad de missiles ou de blindés qui comportent des pièces « made in Germany ». Mine de rien, c'est un veto que les Allemands mettent sur notre commerce extérieur, sans se concerter, comme prévu dans le traité d'Aix-la-Chapelle. C'est un pan essentiel de notre politique arabe qui se trouve ainsi torpillé, avec une victime collatérale, l'utopie de la défense européenne. Le 1er avril, ce n'est pas un poisson que Heiko Maas a accroché dans le dos de Jean-Yves Le Drian, c'est un poignard qu'il a planté.
Vincent Hervouet pour l'édito international.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Il avait un petit chat à la fin dans la gorge, notre ami Vincent Hervouet. Mais vous, Audrey Crespo-Mara, vous êtes limpide ce matin.
Vous croyez? Écoutez, je vais essayer. À moins de 2 mois des européennes, la France insoumise ne décolle pas des 8%. Alors elle décide de lancer ses propres sondages et aussi, depuis hier, un emprunt populaire pour financer sa campagne. Manon Aubry, tête de liste La France insoumise, sera mon invitée.
À tout de suite, on a hâte de vous écouter. Vous écoutez Europe 1.
Il est 8h17, Nico Saliagas.
La tête de liste de la France insoumise aux élections européennes, Manon Aubry, et votre invité Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Manon Aubry.
Bonjour.
Jean-Luc Mélenchon est très déçu par vos scores dans les sondages, 8%. Il a donc décidé que la France insoumise allait réaliser ses propres sondages. Alors quel est votre score selon les sondages maison? Est-ce que vous dépassez les 10%?
Ce sont des données internes que l'on gardera comme un outil de pilotage interne. Je pense que peu importe ces sondages en externe, je sais qu'ils font beaucoup parler. Tout le monde a le droit d'en faire. D'ailleurs, la commission des sondages l'a dit. Ce qui compte, c'est la campagne qu'on mène. Vous en avez parlé, par exemple, l'emprunt populaire, le meeting qu'on fait à Nîmes cette semaine.
On va en parler. Donc je pense que c'est vraiment ce qui compte. On ne dit rien des sondages. On garde
non,
ça secret.
C'est un outil de pilotage interne. Il ne faut pas en faire plus que ça.
En tout cas, Marine Le Pen a dépassé les 20% à la présidentielle et ses électeurs semblent lui rester fidèles puisque sa liste dépasse les 20%. Dans les sondages. À votre avis, pourquoi les 7 millions de Français qui ont voté Mélenchon en 2017 n'ont pas l'intention de voter pour vous ?
La plupart d'entre eux, pour être honnête, n'ont même pas l'intention d'aller voter du tout. Et c'est bien l'enjeu premier de cette élection, c'est de faire en sorte qu'un maximum d'électeurs se déplacent le 26 mai pour aller voter.
Mais les électeurs de la France Insoumise voteraient moins que les autres, c'est ce que vous dites?
Exactement. En tout cas, c'est ce que disent les sondages, ces fameux sondages, si on les croit. Et moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui hésiteraient à aller voter le 26 mai, j'ai envie de leur dire deux choses. La première, c'est ne laissez pas Emmanuel Macron remporter la bataille, notamment ne laissez pas le laissez pas gagner sur un certain nombre de réformes qui vont être annoncées juste après les élections européennes, comme la réforme des retraites. Et puis, n'oublions pas que l'Union européenne est présente dans notre quotidien. Par exemple, les céréales que vos auditeurs sont peut-être en train de manger ont été produites avec du glyphosate autorisé par l'Union européenne. Pareil, pour se rendre ensuite au travail, les transports, l'accès aux transports publics. On sait qu'une directive a privatisé, par exemple, le rail et la SNCF et a conduit à la fermeture de petites gares. Voilà pourquoi il faut aller voter le 26 mai. Voilà l'enjeu principal, je pense, de cette élection.
Alors, la France Insoumise et le Rassemblement National sont les deux partis qui ont manifesté le plus de soutien aux Gilets jaunes. Pourquoi le parti de Marine Le Pen en tirerait les bénéfices et pas la France Insoumise ?
Alors déjà, je pense que la tentative de nous mettre dos à dos est, n'est pas prouvée dans les faits.
C'est vous qui avez apporté le plus de soutien aux Gilets jaunes, ces deux partis-là.
Oui, je pense que là, le Rassemblement National, ça fait bien des semaines qu'on ne les a pas entendus parler des Gilets jaunes. Il y a un signe qui ne trompe pas. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que le Rassemblement National n'est pas pour l'augmentation du SMIC, n'est pas pour le rétablissement de l'ISF, n'est pas pour un changement institutionnel. Bref, ne partage pas le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, après, vous dire qui profite du scrutin, c'est avoir une vision électoraliste des choses. Je sais juste que les propositions qui sont mises sur la table par les Gilets jaunes font écho aux propositions de la France insoumise, que ce soit en matière de partage des richesses ou partage du pouvoir.
Alors, une partie de vos électeurs aurait décidé de voter pour l'écologie. Yannick Jadot est d'ailleurs au-dessus de vous dans les sondages. Vous,
à
sur
peu près
l'écologie...
À égalité, je me permets de corriger, mais bon, on verra le résultat.
On verra. Vous vous dites que pour mener une vraie politique écologique, il faudrait obligatoirement sortir des traités européens. Vous souhaitez que la France quitte l'Union européenne? Vous souhaitez le Brexit?
Ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez qu'on parle des traités européens. Si nous voulons avoir une politique écologique conséquente, il y a des freins posés par les traités européens actuels. Parmi ces freins, on trouve l'inscription du libre-échange dans l'ADN même des traités européens, ce qui fait qu'on organise un grand déménagement du monde en faisant venir des marchandises de l'autre bout du monde. Je vais au bout de ma démonstration, parce que celle-là est importante. Les autres contraintes posées par les traités, c'est la règle des 3% de déficit, qui fait qu'on ne peut pas investir massivement dans la transition écologique, qu'on est contraint par cette règle, alors qu'il faut beaucoup d'argent. On peut vivre avec 3% de déficit, mais on ne peut pas vivre avec 3 degrés de réchauffement climatique. Je vous ai donné 2 exemples de contraintes, je pourrais en citer d'autres. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut user du rapport de force que représente la France, 18% de l'économie européenne, pour changer ces règles, pour rompre
donc
avec
changer
ces
l'Europe
règles
de l'intérieur.
Et donc, ça veut dire, non, ça veut dire soit on change collectivement les traités, soit on les change avec d'autres. Mais quoi qu'il arrive, nous n'appliquons plus ces règles. Sinon, nous ne pouvons pas faire de l'écologie une politique conséquente. Tous ceux qui disent l'inverse ne font que mentir, parce que sinon, nous sommes coincés et nous ne pouvons pas faire cet investissement nécessaire.
Manon Aubry, hier, Jean-Luc Mélenchon a lancé un emprunt populaire pour financer votre campagne. Vous avez déjà recueilli 300 000 euros.
Je me permets de corriger la France insoumise, qu'on personnalise souvent le mouvement autour de Jean-Luc Mélenchon, mais nous sommes un mouvement politique et pas juste Jean-Luc Mélenchon qui a lancé un emprunt.
Ça vous dérange qu'on parle autant de lui?
Non, il y a eu une petite musique la semaine dernière avec un certain nombre de médias qui résumaient, qui disaient la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon reprend la main, etc. Une petite musique misogyne d'un certain nombre de médias jusqu'à l'Obs qui a invisibilisé les femmes tête de liste aux élections européennes. Je sais que nous ne sommes pas nombreuses, nous ne sommes a priori que
ça
deux ou trois.
Ça vous vexe, ça?
Non, je pense que ça résume les travers de la 5ème République de personnalisation et une façon de faire de la politique qui est extrêmement misogyne. Et moi, je me bats contre ça. Et sur l'emprunt populaire,
300 000 euros. Hein.
On a en moins de 24 heures, en effet, collecté plus de 300 000 euros. Le concept est assez simple, puisque nous avons du mal à accéder à des prêts de la part de banques.
Pourquoi?
Alors
parce que
c'est
vous êtes
un outil démocratique,
vous pensez, ou parce qu'ils n'ont peur de...
Malheureusement, vous savez, je crois
remboursé.
Que c'est le cas de l'ensemble des mouvements politiques, alors que nous sommes quasiment assurés d'être remboursés par l'État. Mais c'est une vraie difficulté et un enjeu démocratique aujourd'hui. Donc notre meilleure force, ça reste le nombre. On n'a pas, à défaut d'avoir les millions d'euros, nous avons les millions de gens. Et donc nous faisons des emprunts citoyens auprès des individus. Et donc, j'encourage tout le monde à faire des prêts ou des dons sur la plateforme finaction.fr qui nous permettra de mener campagne jusqu'au 26 mai.
Vous êtes vous-même candidate, donc tête de liste. Le prêt minimum est de 400 euros, vous-même. Quelle somme vous avez prêté pour financer votre campagne?
Je n'ai pas le droit. Dans les règles de la commission électorale, les candidats n'ont pas le droit de prêter de l'argent.
Manon Brie, il y a eu hier soir trois nominations au gouvernement. Simbeth Ndiaye s'occupait depuis longtemps de la communication d'Emmanuel Macron. Elle a été désignée pour remplacer Benjamin Griveaux, porte-parole. Elle est moins techno que Benjamin Griveaux, non?
Je me souviens de sa déclaration qui disait qu'elle assume mentir pour protéger le président de la République. Je crois qu'elle a trouvé toute sa place au gouvernement quand, pas plus tard que la semaine dernière, le président de la République, Emmanuel Macron, a menti s'agissant du terrible incident qui est arrivé avec Geneviève Legay lors de la manifestation des Gilets jaunes à Nice, où elle a été blessée par un policier qui l'a poussée. Le policier a exprimé des regrets que n'a pas exprimé le président de la République, ni même une once de compassion, même en pointant du doigt Geneviève Legay en disant qu'elle manquait de sagesse en se trouvant dans cette manifestation. Donc finalement elle est plutôt bien adaptée à la fonction qu'on lui demande, et je pense qu'elle trouvera toute sa place dans ce gouvernement.
Autre nomination, Amélie de Montchalin pour remplacer Nathalie Loiseau à l'Europe, une économiste de droite. À l'Assemblée, elle était le fer de lance de la majorité pour la suppression de l'ISF. C'est un symbole de l'affaire entre gouvernements?
Oui, c'est tout un symbole. On vient d'avoir quand même plus de 3 mois de mobilisation sociale qui pointe du doigt l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune qui a été supprimé, une politique en faveur des plus riches. Et que fait le gouvernement en réponse à cela? Il nomme celle qui est la chef de file, la fer de lance, dont son plus grand fait d'armes est la suppression de l'ISF. Donc c'est un signal terrible envoyé à la mobilisation sociale, parce que ça va bien au-delà de la question des gilets jaunes. Aujourd'hui, ce qui est largement partagé dans le pays, c'est davantage de justice fiscale et la demande du rétablissement de l'ISF. Je crois que le gouvernement ne l'a pas entendu.
Manon Aubry, selon le Figaro, Nicolas Sarkozy est persuadé que le quinquennat d'Emmanuel Macron finira mal. C'est votre avis?
Franchement, j'ai même pas envie de commenter ça. On ressort les fantômes du placard de la politique.
Je crois
qu'il a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Sur le fond,
Nicolas Sarkozy.
Sarkozy. Et sur le fond, je crois que malheureusement, l'entêtement du gouvernement et du président de la République à ne pas entendre ce qui se passe dans le pays, à ne pas entendre les aspirations pour davantage de justice fiscale, de justice sociale, de partage du pouvoir, peut contribuer à une situation de blocage dans le pays. Et personne ne veut ça.
Autre
personne
ancien président, François Hollande, au sujet d'Emmanuel Macron,
fantôme.
Dit ceci: à vouloir tout bousculer, tout s'est arrêté. Partagez son diagnostic?
Là aussi, on est le 1er avril, j'ai l'impression que c'est un peu un gag des retours des présidents de la République.
N'est pas un poisson d'avril.
Je sais pas s'ils sont coordonnés, mais je crois qu'il a, là aussi, il a de leçons à donner à personne. Emmanuel Macron est un peu la créature, en fait, de François Hollande. On rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a été ministre du gouvernement de François Hollande, qu'ils ont fait ensemble le CICE, qu'il voulait quand même la déchéance de nationalité, la politique économique injuste qui est menée à l'heure actuelle est finalement le fruit et la continuité du gouvernement précédent. Donc leurs petites phrases, leurs petits commentaires et leurs tentatives de retour politique est, je pense, assez ridicule, et personne n'est dupe.
Merci Manon Bré.
Donc si je résume ce qu'on a entendu en partie dans votre interview de Récaspo Mara, Sarkozy Hollande des fantômes, Sibeth une menteuse, donc elle est à sa place, en gros, c'est ce que vous avez dit entre les lignes, et qu'il faut rompre avec les 3% des critères de Maastricht, justement, pour changer la donne et pouvoir mettre plus d'argent pour le réchauffement climatique. Merci d'avoir été notre invité ce matin, Manon Aubry, dans l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol à 8h30. L'essentiel de l'info, à tout de suite.
Sur Europe 1 avec Nikos Aliagas, il est 8h27. Prochaine demi-heure, Nikos.
David Abiker est là pour la revue de presse. On le retrouvera dans quelques instants. Le mot-clé,
c'est Atchoum, Nikos.
C'est-à-dire
Atchoum, parce que les allergies font la une du courrier Picard. Et il y a un nouveau métier, ça s'appelle Sentinelle. C'est des bénévoles qui scrutent les arbres, ils les regardent, ils voient où en sont les pollinisations et ils préviennent une plateforme qui s'appelle Pollinaire. Et ça vous évite d'éternuer si vous prenez vos dispositions à l'avance.
À 8h40, il est de retour et en très grande forme. En ce 1er avril, Nicolas Canteloup et la revue de presse, que juste après la revue de presse de David Abiker.
Et tout de suite, c'est Laurent Cabrol pour la météo, Nikos.
Lolo, Atchoum.
Atchoum. Et ce sont des journées, tenez, qui seront propices à l'apaisement de ceux qui souffrent d'allergies, parce que la pluie arrive, et justement pendant les périodes de pluie, les allergènes sont moins agressifs. Alors en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, elle est folichonne, moyennement folichonne, parce que nous avons quand même des températures soutenues entre 17 et 22 degrés cet après-midi, c'est quand même sympa. Nous avons un peu de pluie en ce moment sur les Landes, sur le massif pyrénéen, et ces pluies remontent légèrement vers des régions comme Auvergne, les Issons, vers la Poitou-Charentes, Limousin, l'Auvergne, le Midi-Pyrénées, le Roussillon, seront concernés par ces intempéries. Demain, ça sera beaucoup plus sérieux. Là, ça ne viendra pas du sud, ça viendra de l'ouest, c'est-à-dire ça viendra de l'Atlantique, ça va balayer la France d'ouest en est, et là il y aura vraiment des giboulées, il y aura des orages, et nous aurons des températures qui commenceront sérieusement à baisser, et mercredi nous serons presque sous des températures hivernales, entre 2 et 5 degrés le matin, entre 9 et 13 degrés dans la journée. Vous voyez qu'on va dégringoler, on va perdre quelque chose comme 10 degrés en l'espace de 3 jours ou de 2 jours. C'est énorme. Et atchoum, atchoum, atchoum.
Bon, couvrez-vous alors.
Voilà, courez-vous, chers
amis. Et nous
allez,
aussi. À tout à l'heure. Merci, Laurent Cabrol.
Nous sommes le lundi 1er avril.
7h à 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Et on revient sur toute l'actualité à 8h30 avec vous, Nikos Aliagas.
4 résidents d'un EHPAD au sud de Toulouse sont décédés après une probable intoxication alimentaire hier soir. 15 autres personnes sont en urgence relative. Un poste de commandement a été mis en place sur le site, ainsi qu'un centre d'accueil des familles près de la mairie. Écoutez les précisions de Frédéric Pazian, adjoint au maire de la commune de Lerme.
On reste sur le scénario donc de l'intoxication alimentaire, qui était la première cause soupçonnée dès minuit, puisque les pensionnaires ont eu les premiers troubles et symptômes vers 20h. Donc on va estimer 1h30 après la prise de leur repas. Donc les chambres des victimes ainsi que le restaurant et les cuisines ont été bouclées pour les besoins de l'enquête, pour procéder à tous les prélèvements et analyses. Pour nous, commune de 3700 habitants, c'est un choc. Et puis, voilà, gérer une telle situation, mais ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire.
Propos recueillis par notre correspondant Benjamin Pétard, qu'on retrouvera dans nos autres éditions. Dans l'actualité également, Conseil des ministres ce matin à l'Élysée avec 3 nouveaux visages. Sibeth Ndiaye, qui devient porte-parole du gouvernement. Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Et Cédric O, secrétaire d'État au numérique. Le procès de Bernard Tapie. Après 3 semaines de débat, le ministère public va prononcer aujourd'hui son réquisitoire. L'homme d'affaires est accusé d'escroquerie. Le pape s'est exprimé hier sur son refus d'accepter la démission du cardinal Barbarin dans l'avion qui le ramenait du Maroc. Le pape a insisté sur la prévention d'innocence.
En ce qui concerne le cardinal Barbarin, il a donné sa démission. Mais moi, je ne peux pas moralement l'accepter. Car juridiquement, comme aussi dans la jurisprudence mondiale classique, il y a la présomption d'innocence aussi longtemps que le dossier est ouvert.
Durante il tempo che la causa sia aperta.
E lui ha fatto un recours et le dossier est ouvert. Ensuite, Quand le second tribunal rendra son jugement, on verra ce qu'il se passera.
Le souverain pontife qui a par ailleurs reproché à l'Europe son insensibilité face aux migrants. Sport, le Paris Saint-Germain est allé battre Toulouse hier soir 1-0. Un but de Kylian Mbappé. Match en retard ce soir, Saint-Etienne accueille Nîmes. Coup d'envoi 20h30. Roger Federer, toujours plus fort. Le tennisman suisse a remporté hier le 101e titre de sa carrière. En finale du Master de Miami, il a dominé l'Américain John Isner.
Europe 1. La Caisse d'épargne vous présente la revue de presse. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Et la revue de presse, c'est avec David Abiker, Nikos.
David, le journal du jour ce matin, c'est le Petit Bleu d'Agen.
C'est mignon le Petit Bleu d'Agen.
Très.
C'est dans le Lot-et-Garonne, 9000 lecteurs. Il fait sa une sur la sécheresse. La terre a déjà soif, titre-t-il, avec la photo d'une terre desséchée, craquelée, assommée de soleil. Et le Petit Bleu d'Agen explique. Des champs de blé irrigués alors que nous sommes tout juste en avril. L'absence de pluie de ces dernières semaines explique cela. Mais l'eau utilisée en mars ne manquera-t-elle pas en août ? S'interroge le petit quotidien. La soif, ce pourrait être aussi un mot pour résumer les ambitions de ceux qui font l'actualité du jour, Nikos. Dans la quasi-totalité des quotidiens régionaux, on vous parle des métiers d'art, expression et signature des territoires à l'occasion de la Semaine européenne des métiers d'art. Les métiers de la main qui ont soif de reconnaissance. En ouvrant le Parisien aujourd'hui en France, on tombera aussi sur François Hollande qui n'en finit pas de tacler le président de la République et qui lui transpire la soif de revanche. Enfin, les Français découvriront dans toute la presse le visage souriant de trois jeunes gens qui ont soif d'ambition pour leur pays ou pour eux-mêmes. Les trois secrétaires d'État nommés hier à l'occasion du mini-remaniement.
Un mini-remaniement, comme vous dites, largement commenté par les éditorialistes ce matin dans la presse.
Et je n'en citerai qu'un seul, Pascal Coqui, dans les dernières nouvelles d'Alsace, pour qui la nomination de ces trois jeunes fidèles du président accrédite la thèse d'une dévaluation de la fonction ministérielle. Le poste de ministre, dit-il, semble aujourd'hui réduit à celui de chef de service, avec moins de pouvoir, peut-être, lâche l'éditorialiste. Le Parisien aujourd'hui en France tire, lui, le portrait de Sibeth Ndiaye, vraie surprise de ce mini-remaniement. Ancienne conseillère presse du président, elle travaille avec lui depuis l'époque où il était à Bercy. La rumeur la disait sur la touche, fragilisée. Cette mère de trois enfants née au Sénégal en convenait récemment. La politique, disait-elle, c'est violent, je suis une femme, qui plus est black. Même ici, à l'Élysée, on essaie parfois de me faire comprendre que je ne suis pas à ma place. Mais le Parisien aujourd'hui en France décrit une coriace qui ne s'est pas fait que des amis. Elle peut être dure, cassante, mais bosseuse, battante. Le Parisien aujourd'hui en France qui rappelle cette sortie de Sibeth Ndiaye en juillet 2017. J'assume parfaitement de mentir pour protéger le président. Protéger le président qui en a bien besoin, si l'on en juge, par la longue interview donnée par François Hollande au quotidien, entretien qui semble n'avoir qu'un objectif, tacler son successeur et montrer qu'il existe une alternative entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, lui-même. De quoi donner des allergies à la fidèle Sibeth Ndiaye et à son président, les allergies qui font la une du courrier Picard.
Eh oui, et l'interview de François Hollande est dans Le Parisien aujourd'hui en France. Alors, avec l'arrivée du printemps, c'est le retour des pollens.
Eh oui, je vous le disais tout à l'heure. Et le courrier Picard décrit ce matin le fonctionnement de Pollinaire, plateforme qui anticipe l'arrivée des pollens fauteurs d'allergies. La région des Hauts-de-France mobilise 160 sentinelles bénévoles qui vont observer les arbres et lancer l'alerte. Alors, pas besoin d'être botaniste, mais juste être capable, en regardant un bouleau, un noisetier, un frêne ou un charme, de dire s'il est en phase de floraison, de pollinisation ou en fin de pollinisation. Un diagnostic que chacun peut faire dans son jardin, dans la rue, pour alimenter un réseau d'informations de proximité qui préviendra en amont les allergiques. Ça s'appelle tout simplement de l'intelligence collective, à ne pas confondre avec l'intelligence artificielle qui aide désormais les radiologues à établir leur diagnostic, nous explique ce matin le Figaro, qui revient sur une étude menée récemment par la revue JAMA Network Open. On a confié des radios du thorax à des radiologues coréens, non assistés par une intelligence artificielle, et des radios à des médecins qui l'étaient. Résultat, les observations et diagnostics des médecins non équipés sont bons, ceux des radiologues assistés sont excellents. Ça ne veut pas dire qu'on va confier le diagnostic à une machine, ça veut tout simplement dire que la radiologie va évoluer grâce à l'intelligence artificielle. Pas besoin, en revanche, d'une intelligence artificielle
pour soupçonner ce matin la une de Nord Littoral de jouer avec les nerfs de ses lecteurs et des Français.
Expliquez-nous, parce que j'ai lu que l'Angleterre réclamait Calais à la France.
Rendre Calais à l'Angleterre en vertu d'un parchemin datant de 1559 et récemment découvert par des archéologues. On pourrait y croire si Nord Littoral ne citait ce matin les propos récemment prêtés à Theresa May qui aurait déclaré au Parlement britannique « I want my Calais back », autrement dit « Rendez-nous Calais ». C'est vrai que le Brexit n'est pas assez compliqué, alors pourquoi ne pas y ajouter une petite guerre avec l'Angleterre ? On souhaite un excellent 1er avril à nos confrères de Nord Littoral, ainsi qu'à Theresa May.
David Abicare, thank you.
C'était la revue de presse avec Caisse d'Épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À ne pas rater dans quelques instants, le showman, l'ambassadeur du 1er avril toute l'année, Nicolas Cantelot.
A tout de suite sur Europe 1 avec Nico Saliagas, il est 8h40. Il est 8h42.
Julie est dans la place, Nicolas Cantelot est prêt, c'est parti. Voici la revue de presse.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Cantelot. Et c'est parti pour le rappel des titres de l'actualité, Nikos.
Ouais, on est dans la place. On salue ça, d'ailleurs, oui. Stéphane Place à Bordeaux.
Ouais.
C'est super de vous retrouver, chers auditeurs. On adore cette heure d'été. On se lève une heure plus tôt. J'ai transformé du coup mes nuits en... On appelle ça comment? En sieste, je pense. Voilà. Avant, je dormais 2 heures. Désormais, je dors quoi, entre 17 et 20 minutes. Le souci, c'est que j'ai peur, franchement. Je vous le dis à tous autour de cette table de m'endormir à l'antenne.
En fait,
et c'est vrai que ça...
Qu'est-ce qu'il y a?
Allez, Nikos, Nikos.
Ouais, je suis où là? Ouais. Ah ouais, à l'antenne. J'ai dit l'antenne. Oui, l'antenne, j'adore l'antenne. Allez, l'info surround. Pardon, c'est mes fiches, elles sont mes fiches. Voilà, l'info surround, c'est l'arrivée au gouvernement des 3 petits nouveaux. Sibeth Ndiaye, Cédric O et Amélien de Montchalin. Qui ont déjà réussi un exploit. Quel est cet exploit? C'est de rendre Stéphane Travert, Annick Girardin et Adrien Taquet moins anonymes qu'avant par rapport à eux. Alors, je vois vos oreilles dubitatives. Si, ils existent, Adrien Taquet. Il existe, lui. Non, il est secrétaire d'État à la Santé, c'est marqué sur ma fiche. C'est ton moment de gloire, Adrien. T'es au taquet,
C'est
pas lire Laurent Cabrol.
Allez, on commence avec cette déclaration choc de François Hollande. L'extrême droite arrivera au pouvoir en France un jour. Bonjour, François Hollande.
Oui, bonjour. Bonjour à votre formidable équipe de la matinée. Je vous écoute, je dois vous le concéder, chaque matin. Et je vous trouve tous, autant les uns que les autres, brillants.
C'est bien ça.
Poisson d'avril.
Je l'attendais.
Bon, ne répondons pas.
Pas aussi brillant que vous dans Le Parisien ce matin.
On va revenir sur cette phrase, hein, votre phrase, l'extrême droite arrivera au pouvoir en France un jour.
Oui, alors vous remarquerez quand même que mon livre s'appelle Les leçons du pouvoir. J'ai effectivement tiré les leçons du pouvoir. Oui, monsieur Apathy. Avant, vous vous en souvenez, je disais j'inverserai la courbe du chômage avant la fin de l'année. Et forcément, à la fin de l'année, on se foutait de ma gueule. C'était corollaire. Alors que malin, tel le renard, aujourd'hui, je dis l'extrême droite arrivera au pouvoir en France un jour. Tout est dans la nuance, c'est le un jour qui change tout. Et c'est peut-être dans 600 ans, dans 200 ans, dans 2 ans. Et comme ça, personne ne peut me mettre en difficulté.
Ben c'est malin, hein. Oui,
ben oui, c'est non seulement c'est malin, mais c'est le secret, c'est rajouter le un jour à la fin des phrases. Et ça marche pour tout. J'inverserai la courbe du chômage un jour. Un jour, mon ennemi sera la finance. Ben, c'est ce que j'aurais dû dire. Je vous promets plus de pouvoir d'achat un jour. Mais un jour, j'aurai une fiancée. Voilà, c'est bien, monsieur Barré. Vous avez compris le principe.
Un jour, mon prince viendra. Allez, nous aussi, on a compris. Merci, monsieur Hollande.
Oui, c'était pas drôle.
Non, mais je voulais lire à Nicolas Barré, mais j'ai... Non, ça va pas marcher. Allez, on va quand même...
C'est pas drôle, je confirme.
Bon, on va quand même dire un mot de votre livre qui sort en livre de poche, monsieur Hollande.
Oui, qui sort en livre de poche. Vous êtes bien urbaine de faire cette promotion quelque part. Merci. Et là, alors, si vous me permettez, je peux abuser de vos moyens techniques d'Europe 1, même si toute la discothèque a été vendue. C'est un signe avant-coureur d'une embellie, on le sent. Quand on commence à vendre toute la discothèque. Alors, écoutez,
c'était des vinyles, alors on est passé au CD.
Ne vendez pas les micros tout de suite.
Hein. Arrêtez.
Et la technique, s'il vous plaît, une musique moderne, je ne sais pas, de réclame. Oui, c'est bien aussi. Amis lectrices, amis lecteurs, vous êtes coincés dans le métro avec l'envie de tout comprendre du quinquennat qui a marqué l'histoire. Offrez-vous les leçons du pouvoir en format de poche et mettez à profit vos trajets quotidiens pour vous replonger dans les 5 ans qui ont façonné la France d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Un anniversaire ? Une bar mitzvah, un pot de départ. Les leçons du pouvoir sont disponibles en cassette audio, laserdisc ainsi que dans une édition enrichie de 5 DVD et 2 Blu-ray. Pour analyser l'œuvre majeure d'un des dirigeants politiques les plus influents de l'Europe. Alors n'hésitez plus, 9,95€ TTC, prix de lancement premium.
Ah ben c'était bien vendu, hein. On va courir l'acheter votre livre, monsieur Hollande. Le petit ouais. Emmanuel Macron était ce dimanche sur le plateau des Glières, hein, c'est ça, des
Glières. Oui, pas des Guignols. Non.
C'est dans les Alpes, pour commémorer la mémoire des maquisards tués par les nazis. Laurent Wauquiez, le président de la région, était présent. Nicolas Sarkozy aussi. Bonjour, monsieur Sarkozy.
Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi, vous en taquinez sur Savonnage. Merci en tout cas de m'accueillir à tous et à toutes, Mme Bouchard, Monsieur Piquet, Monsieur Paty, Mme Acosta. J'oublie quasiment personne, monsieur Hagel, bien sûr, vous êtes des piliers. Merci de m'accueillir. Merci aussi à vous de votre accueillage. Écoutez, j'ai accepté l'invitation du président Macron parce qu'elle m'a permis de faire une chose à laquelle je suis en République très attaché.
À rendre hommage aux résistants.
Non, faire chier Laurent Wauquiez. Je sais, c'est cruel, mais pas très bouddhiste, on est d'accord, Mme Bouchard, mais à chaque fois que je tapais dans le dos de Macron ou que je lui donnais un conseil, je voyais la gueule de Wauquiez qui s'allongeait d'un kilomètre. Qu'est-ce que j'ai rigolé sur cette journée. Il se demande encore pourquoi je l'aide pas lui et pourquoi je suis sympa avec son adversaire numéro un, Macron.
Bah, on peut se poser la question, remarquez.
Bah alors...
pourquoi vous n'aidez pas Laurent Wauquiez d'ailleurs? Après tout, il est votre successeur à la tête des Républicains.
Mais Mme Julie, mais ouvrez les yeux. Mais je pense que je suis comme tout le monde. Je ne l'aime pas.
Oh. Bon, bah, parlons alors de quelqu'un que vous aimiez, Nicolas Sarkozy. Un mot de la disparition d'Agnès Varda. Est-ce que vous pouvez nous citer, je sais pas moi, vos deux films préférés de cette cinéaste?
Mais de quoi?
Deux films préférés d'Agnès Varda.
Deux films préférés d'Agnès Varda.
Oui, oui.
Déjà, hein.
Déjà, hein,
ouais. Même si c'est déjà bien dans
bon,
cité. Alors, c'est sûr que ce qu'on retient, avant de retenir, il y avait la pharmacienne, mais
quoi,
c'est surtout la cinéaste, Agnès Varda, qu'il faut.
Non, pas Varda, non, attendez. Non, Agnès, s'il vous plaît, c'est Agnès Varda.
Oui, mais enfin, il ne faut pas oublier quand même ce qu'elle a. Dans le monde de la pharmacie, c'est quelqu'un. Mais bon, on va occulter. Elle avait deux vies. Ouais, on va parler de la cinéaste.
S'il vous plaît.
Donc Agnès Varda,
oui.
Vous m'avez demandé, vous savez, il y a tellement de films d'Agnès Varda. Il y a d'abord les anciens, puis il y a les plus récents aussi. Oui. Alors lequel que je préfère, vous me posez la question, je ne vais pas me dérober, ce n'est pas mon cher.
Allez-y.
Bon, All Inclusive, c'est...
Bon, ah c'est pas...
Non, mais je sais que ce n'est pas elle. Je sais que ce n'est pas elle. Simplement, je voulais le préciser pour les auditeurs qui pouvaient hésiter.
Oui, bon, voilà. Ouais.
Si, ça me revient. Alors, il y a un film, c'est Clio de 5 à 7.
De 5 à 7.
C'est l'histoire de cette femme qui va au travail en Renault et qui travaille dans un pressing.
En Renault, en Clio, et, c'est ça et, écoutez, et c'est qui, pas... Non, mais c'est pas... C'est Cléo de 5 à 7.
Oui,
hein, je crois que vous avez rendu...
Pas loin, c'est
non, 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 c'est un très bel hommage à Agnès Varda. Merci, M. Sarkozy.
Je vous en prie.
Ce week-end, on est passé à l'heure d'été.
Si vous avez un décès de quelqu'un, appelez-moi. Hein.
On n'y manquera pas. Ce week-end, on est passé à l'heure d'été, alors que le Parlement européen a mis fin au changement d'heure. Le magazine Le Point nous rappelait, dans un article intitulé « Heure d'été, la revanche d'Alain Juppé », qu'en 1997, Alain Juppé en avait fait un de ses combats. Bonjour, monsieur Juppé.
Oui. Bonjour, madame Julie, et bonjour aux autres. C'est vrai qu'en 1997, alors que j'étais Premier ministre, monsieur Paty, vous savez, je suis allé à l'Union européenne faire voter la suppression de ce changement d'heure.
Et l'article nous dit que c'est une des rares fois dans l'histoire où il y a eu un vote à l'unanimité contre vous.
Tout à fait. C'est vrai. C'est fou, hein. Quel parcours, quel palmarès. Je suis le Zidane de la défaite. S'il y avait un ballon d'or de la loose, je serais Cristiano Ronaldo. Prenez un sujet sur lequel l'Europe est d'accord, suppression du changement d'heure. Vous le faites défendre par moi et je pomme quand même. Ils sont cons, les Anglais, finalement. J'y arriverai, moi, à faire passer le Brexit. Il suffit que je défende l'inverse.
Merci, monsieur Juppé. Laurent Wauquiez a félicité Éric Ciotti après l'apparition d'un dernier sondage qui le place au coude à coude avec le maire de Nice, Christian Estrosi, pour les municipales de 2020. Bonjour Éric Ciotti.
Oui, bonjour à votre joyeuse matinale. Petite précision, vous avez dit que le sondage me donnait au coude à coude avec monsieur Estrosi. L'expression est mal choisie. L'expression la plus juste serait... Je suis au coude à genoux. Oui, car à côté de Estrosi, mon coude touche son genou.
En tout cas, vous allez vraiment vous présenter face à votre ancien ami ?
Oui, car dorénavant, disons-le, et de façon concomitante, je le déteste. Je le hais, Christian Estrosi. Je vais vous dire une chose, parce que je suis transparent, je dis les choses cash. Je souhaite son décès par étouffement au Pambania. Mais monsieur Aga, c'est mon pire ennemi. Spider-Man a comme pire ennemi le bouffon vert, et bien moi, c'est Christian Estrosi, le bouffon rouge. Hein. L'ennemi de Harry Potter, c'est Voldemort, et bien moi, c'est Christian Estrosi. On a tous, que voulez-vous, des ennemis. James Bond, lui, a le spectre. Luke Skywalker, Dark Vador. Laurent Cabrol, lui, c'est l'eau minérale. Julie, les robes à fleurs. Monsieur Apathy, c'est les peignes. Monsieur Axel de Tarlé, c'est les fers à repasser. Moi, c'est Christian Estrosi. Pardon, c'est vrai que non, je suis injuste avec monsieur Axel de Tarlé.
Bah, écoutez, oui.
C'est vrai que je l'ai vu ce matin, il était impeccable dans sa liquette blanche immaculée. Je pense que ça devait être son poisson d'avril. Il a dû se dire, je me mets une liquette repassée aujourd'hui, ils vont bien rire à la matinale.
Hier, j'ai fait des bisous à une fille.
Ah,
enfin. Poisson d'avril.
Écoutez, on l'avait un peu, hein. On l'avait celui-là, hein, Nicolas Barré. Nicolas
Cantu. Ben oui, c'est un poisson d'avril tous les jours, c'est trop court. Tiens, puisque vous dites que c'est trop court, moi aussi il me manque Nicolas. Nicolas Cantelou me manque. Vous êtes toujours là, Nicolas ?
Oui.
Vous savez quoi ? Ce soir, je reprends du service sur TF1 avec vous.
Ah bon ?
Voilà, je reviens dans la maison.
Je reviens.
Ah, c'est
une blague.
Bien, ça.
Non, c'est pas une blague, je serai là ce soir, ça m'a énervé, donc je reviens. Non, préparez-vous à m'accueillir ce soir. Non, je suis sérieux. Chiche, ce soir.
Oh, yes.
Ok ? À tout à l'heure. Tous les jours, le tour de la question sur Europe 1. 2 heures de débat, 2 thèmes, 9h, 10h, 10h, 11h, avec Wendy Bouchard.
Et absolument, chers amis, alors on parlait avec Nicolas Cantelou du climat très pacifique à Nice en ce moment entre Christian Estrosi et Éric Ciotti. C'est la bataille des municipales qui nous intéresse. Vous savez que le mini-remaniement au gouvernement a été provoqué parce que 2 poids lourds du gouvernement sont en partie engagés dans la bataille de Paris. Qu'est-ce que cela préfigure du grand bal des municipales, alors que 49% des élus actuels disent ne pas vouloir se représenter. Oui. On parlera de Marseille, de Lyon, de Nice, des grandes métropoles, mais aussi des plus petites communes dans lesquelles, pour certains... Parfois, la bataille est déjà lancée. Gaël Sliman, Jean Garrigue nous font une lecture du sujet. Puis à partir de 10h, on va s'interroger sur la persistance des mythes grecs dans notre société. Ah. C'est un sujet qui vous touche ô combien.
Vous restez
Nikos
avec nous.
La
salèche,
je vous écoute.
L'esprit grec.
Je vous appellerai en auditeur anonyme.
Avec plaisir. De Thésée à Persée, pourquoi ces mythes continuent de fasciner de 7 à 77 ans. Leur empreinte est durable. Et on vous explique pourquoi avec Luc Ferry et le dessinateur Jules, auteur de 50 nuances de grec.
D'ailleurs, le Louvre lance, célèbre le père de l'Iliade et de l'Odyssée.
Absolument.
Homère, dont on ne sait rien, mais dont l'œuvre est toujours d'actualité quelques siècles plus tard.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Wendy Bouchard, à partir de 9h.
À suivre la météo et puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1. 8h56 à suivre l'essentiel de la matinale, mais tout de suite c'est la météo avec Laurent Cabronikos.
Alors Laurent,
un petit mot pour vous rappeler qu'aujourd'hui donc le temps est en train de changer avec l'arrivée de la pluie par la région Béarn et puis Béarn et Aquitaine, et ensuite elle va se propager très légèrement vers le Poitou-Charentes, le Massif Central, et nous aurons des nuages qui progressivement vont arriver sur les régions du Nord, mais seront à l'abri encore du mauvais temps, le littoral de la Manche et la mer du Nord, la région parisienne, la Lorraine, l'Alsace, la Champagne et les Ardennes. Nous aurons encore du soleil aujourd'hui et surtout de la douceur pour pratiquement nous tous, à 22 degrés à Lyon et 21 degrés à Paris, c'est pas mal. Demain, ça va se gâter sérieusement. Et surtout, après-demain, nous entrons dans une petite période hivernale. Je vous en dirai plus juste avant 10h avec Wendy Bouchard.
Avec plaisir, Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Lundi 1er avril, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. D'abord, ce drame survenu cette nuit à la maison de retraite La Chêneraie, dans la commune de Lerme, au sud de Toulouse. 4 personnes âgées résidentes de l'EHPAD sont décédées. Il s'agit d'une intoxication alimentaire, selon la préfecture. Écoutez les précisions de notre envoyé spécial sur place, Benjamin Peter. C'était dans le journal de 8h.
C'est hier, juste après le dîner, que 22 personnes, un quart des résidents de cette maison de retraite, ont été pris de malaise. C'est ce qui explique que la thèse de l'intoxication alimentaire est privilégiée. 4 résidents sont donc décédés. 15 autres en urgence relative ont été conduits dans les établissements hospitaliers de la région et seraient désormais hors de danger. Un centre d'accueil des familles des victimes a été mis en place juste à côté de la mairie, ainsi qu'une cellule médico-psychologique. Et des investigations sont en cours pour déterminer précisément l'origine de cette intoxication.
C'est au tour des catholiques de lancer leur grand débat. Ils sont de plus en plus nombreux du côté des fidèles à vouloir changer l'Église, entachée par les scandales pédophiles. Notamment, à 7h45, je recevais à ce sujet une théologienne engagée, Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. Sexualité, mariage des prêtres, place des femmes, comment réformer l'institution ? On écoute son témoignage.
Ce qui est en jeu, c'est d'abord un rapport au pouvoir. Il faut d'abord introduire de la pluralité dans le pouvoir, de l'altérité, c'est-à-dire que des femmes, des hommes, des laïcs, des célibataires aient accès à plus de responsabilités, à plus d'autorité dans l'Église. Après, nous verrons si, par ailleurs, le mariage des prêtres paraît justifié. C'est un autre débat.
Le cauchemar des grandes villes face au développement anarchique des trottinettes électriques, vélos et autres scooters en libre service. Ils envahissent les trottoirs, si bien que les municipalités ripostent. Stationnement contraint, nombre limité de véhicules et même de nouvelles taxes. Tout pour mieux réguler ces nouveaux moyens de mobilité. Dossier complet à retrouver sur notre site europe1.fr. Voilà pour l'essentiel de la matinale. Merci de nous avoir suivis. En ce 1er avril, trouvez la bonne vanne. Sinon, c'est ringard, je vous le dis. Merci à toutes les équipes de votre fidélité. Prenez soin de vous. Tout de suite, elle arrive, Wendy Bouchard. Et le tour de la question, à demain, Céline
Decosta. À demain, Nicolas. À demain, je vous attends 10h. Hein. Passez nous voir.
Je vous appelle.